Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
9h48 sur Sud Radio, et si vous vous apprêtez à prendre le volant, vous risquez peut-être de ne pas être tout à fait tout seul sur la route, ça c'est sûr. En ce week-end prolongé, on en parle d'ailleurs avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre.
Bonjour Benjamin, bonjour.
Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on vous retrouve bien sûr dans Sa Roule tous les matins de la semaine sur Sud Radio, mais aussi le vendredi de 19h à 20h, le samedi entre midi et midi et demi. Bon Pierre, à quoi on doit s'attendre concrètement sur les routes de France ce lundi ?
Bon, même si le temps n'était pas au rendez-vous partout en France, même si on n'a pas eu un week-end extraordinaire, il est vrai que le déconfinement, enfin, cette ouverture un petit peu avec ce couvre-feu beaucoup plus tard, fait du bien, et beaucoup de Français partent. On a, pour se donner un ordre d'idée, la moitié des bouchons en Ile-de-France, rien qu'en Ile-de-France, qu'on peut avoir normalement sur la France entière pendant la période de transition des 15 juillet, 15 août. Donc vous imaginez un petit peu, ça veut dire que tout le monde a envie de prendre un grand bol d'air frais, ouais. Moi le premier d'ailleurs.
Oui, c'est clair. Vous parlez de l'Ile-de-France, il y a globalement, c'est principalement l'Ile-de-France, Paris. Est-ce qu'il y a d'autres grandes villes aussi où il faut s'attendre à de gros bouchons, clairement, durant l'après-midi, en fin d'après-midi ?
La règle, elle va marcher, Benjamin, sur toutes les villes de France. Pourquoi ? Ouais. Eh bien, parce qu'on a tous envie de voir un petit peu un parfum d'ailleurs. Donc forcément, eh bien, on va aller faire un petit tour sur le littoral si on n'est pas trop loin. Je pense notamment à nos amis du côté de Bordeaux qui vont forcément aller un petit peu s'éloigner. Et quand ils vont revenir, évidemment, la rocade, c'est les bouchons. Toulouse, ça va être la même. On va avoir les mêmes passages de bouchons sur la rocade un petit peu lyonnaise. Donc je conseille à tout le monde de prendre ses précautions, notamment par rapport au couvre-feu, parce que vous savez que quelquefois, les règles peuvent être un petit peu appliquées de manière très stricte. Certains diront trop, je fais partie de cela, mais en tout cas, il y a une règle en place et ne nous mettons pas en infraction. Petit conseil quand même, si vous, avant de partir, faites une photo de l'heure à laquelle vous partez, etc. Parce que si vous tombez dans les bouchons, il faudra prouver votre bonne foi et prouver que vous êtes parti suffisamment en amont, ça évitera une amende.
Ça peut être un plus, en tout cas, ça peut suffire d'une certaine façon. Face à de très gros bouchons. Qui dit en tout cas du monde sur les routes, Pierre dit vigilance accrue, forcément, c'est quoi vos conseils en cas de circulation particulièrement dense, à quoi on fait gaffe hein?
Eh ben, on va faire gaffe, ne pas regarder son téléphone dans les bouchons. C'est certainement la première cause d'accident dans les bouchons. Vous savez, le truc qui va bloquer tout le monde. Parce que du coup, on va s'arrêter pour faire un constat et qu'on va être sur une rocade où on va prendre une voie de circulation. Donc faites attention à ça. Pour le reste, franchement, ça devrait tout devrait très bien se passer.
Oui, avec peut-être des vérifications à faire sur la voiture si on prend la route pour quelques centaines de kilomètres, qu'on rappelle un petit peu à nos auditeurs sur quoi il faut faire attention aussi là également.
Oui, bon, pression des pneumatiques, hein. Même quasiment la moitié des véhicules en France à ne pas avoir la bonne pression. Ça joue sur la consommation du véhicule. Vous allez consommer 1 demi-litre de plus quand même aux 100 km. Ça fait beaucoup surtout vu le prix du carburant. Donc attention à ces petites choses. Bien sûr, les vérifications d'usage, mais tout le monde les connaît, hein. On va pas revenir dessus. Moi, je penserais juste à un détail qu'on oublie parfois, c'est l'essuie-glace. On sait très bien qu'en ce moment, il sert beaucoup. Franchement, un essuie-glace mal réglé, c'est l'absence de sécurité. Lorsque vous êtes sur une rocade et que vous roulez, ou même sur une route départementale et que vous avez un essuie-glace en mauvais état, vous regrettez de ne pas l'avoir changé. Donc un essuie-glace, ça vaut 10 balles, hein, 20 euros maximum. Donc on ne va pas se poser de questions pour 10 euros. On va changer son essuie-glace tout seul. Il y en a pour 3 minutes et puis on n'en parle plus.
Clairement. Juste une dernière question pour conclure, Pierre Chasseret. Parce que je voyais passer notamment cette information, le boom des ventes de voitures d'occasion sur Internet carrément. C'est quoi ? C'est lié un peu à ce confinement où on a des nouvelles méthodes, formes de consommation, justement, parce que ça paraît un peu bizarre quand même.
Complètement, tout a changé. Maintenant, on achète de plus en plus par Internet, y compris sa voiture d'occasion, parce qu'on a des nouvelles petites sociétés qui se sont montées et qui proposent des choses géniales, d'ailleurs. Elles vont voir le véhicule pour vous. Il faut savoir qu'on a évolué, Benjamin, sur comment on achète notre véhicule d'occasion. Avant, on l'achetait à moins de 20 bornes de notre domicile. Maintenant, on l'achète à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous, parce que, via les applications connectées, via les sites Internet, on arrive à avoir accès à des annonces qui sont loin, avec peut-être des bonnes affaires. Donc le petit conseil, c'est de s'orienter vers des sociétés qui vont aller voir le véhicule pour vous, qui vont vous dresser un constat du véhicule, qui vont vous donner toutes les failles potentielles ou alors un blanc-seing pour pouvoir l'acheter. Donc on achète de plus en plus par Internet, que ce soit du neuf, parce qu'avec les visites virtuelles, on peut choisir son véhicule à distance, ou alors que ce soit aussi l'occasion, et c'est d'ailleurs pas forcément un mauvais plan.
Et ben voilà, en tout cas, bonne route à ceux qui la prennent, la route au volant aujourd'hui. quelle que soit la circulation. Peut-être avec les bouchons, bon courage, vous mettez Sud Radio, ça passera beaucoup plus vite. Merci à vous, Pierre Chasseret. On vous retrouve, vous, sur Sud Radio, dès demain matin, 6h20, pour Ça roule. Et puis, je le rappelle, tous les vendredis soirs et samedi midi pour Ça roule l'émission. Bonne journée à vous, Pierre.
Allez, bonne route à tous, soyez prudents.
Merci. Et on a un gagnant, ou une gagnante pour notre jeu. Une semaine pour 4 personnes avec Gilles de France, Béarn et Pays Basque. Cette gagnante, c'est Véronique qui nous appelle de Béziers. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour.
Bravo, félicitations.
Merci beaucoup, oui, je suis très contente.
Et 13e appel, voilà, vous avez gagné. Oui. C'est une belle
Merci
victoire.
Beaucoup.
Qu'est-ce que, alors, vous allez y aller avec qui, en famille?
Oui, avec mon mari, oui.
Alors, plutôt Béarn ou plutôt Pays Basque pour vous? Parce qu'il y a le choix,
plutôt
là.
Plutôt Pays Basque, je pense.
Ah bah voilà, chacun, oui. Non, mais chacun sa préférence, vous avez bien
voilà.
raison. En tout cas, félicitations Véronique.
Merci.
Avec, on va vous envoyer, voilà, cette semaine pour 4 personnes, donc avec Gilles de France, Béarn et Pays Basque, vous choisirez bien sûr. Puis vous profiterez de ces moments de liberté, c'est important aussi de les retrouver, ça Véronique.
Ah oui, ça fera du bien. Oui.
Bah oui, c'est important. En tout cas, merci à vous Véronique et vous continuez bien sûr d'écouter Sud Radio.
Ok, merci beaucoup, merci.
Allez,
à Sud Radio.
À très vite,
merci
Véronique, et profitez bien. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité, comme toujours, en ce lundi de la Pentecôte. Demain, vous retrouverez Cécile de Minibus et Patrick Roger aux commandes de ce grand matin. Dans un instant, c'est Valérie Expert avec Lucien Lefant, des chefs étoilés aussi pour le best-of. Et puis, vos débats en direct avec Christine Bouillot, tout d'abord à partir de 10h30 jusqu'à midi. Et puis, à partir de midi, c'est Arthur Delaborde dans tous ses états. Très bonne journée à vous sur Sud Radio. Merci à toutes les équipes du grand matin. Et puis, bonne journée, avec Sud Radio, forcément.
C'est mettre tout le monde autour de la table dans un quartier. Quand je dis tout le monde, c'est l'école, ce sont les élus, c'est l'État, c'est tout le tissu associatif, c'est la culture, c'est le sport, c'est le sanitaire, c'est le social. Et c'est aussi les acteurs du monde économique pour accompagner nos enfants, nos jeunes adultes, puisque c'est du 0-25 ans, sur tout leur parcours scolaire et en dehors
de l'école. Suivi global,
c'est
du
un
coup.
Suivi global.
Elles ont été créées en 2019, on en a combien aujourd'hui? Ça concerne combien de jeunes?
Alors, elles ont été créées en 2019. Effectivement, il y avait 80 cités éducatives quand j'ai été nommée l'année dernière. On en a aujourd'hui 126, puisqu'on a labellisé 46 nouvelles cités éducatives. Et surtout, on a un objectif, c'est de labelliser 200 cités éducatives d'ici l'année prochaine. Il y aura donc une troisième vague. Je le dis pour les déçus, parce qu'il y a toujours beaucoup de demandes quand on ouvre, quand on fait l'appel à projet. Et donc, il y aura 200 cités éducatives labellisées l'année prochaine. Il y a une forte dotation et un fort accompagnement de l'État en ce sens. Et on a de très, très beaux projets sur l'ensemble de nos territoires, avec, encore une fois, quel que soit le projet. C'est vraiment du pilotage territorial, ça n'est pas descendant, quel que soit le projet. L'idée, c'est d'être présent autour de nos élèves, de nos jeunes et encore une fois de nos jeunes adultes en tout temps.
Justement, pour ceux que ça intéresse, cette nouvelle vague de labellisation, elle aura lieu quand? Est-ce qu'on a un peu une idée?
Alors nous allons faire remonter les dossiers au mois de juin. Mmh. Donc là, c'est un travail qui se fait en partenariat entre le recteur et le préfet. Et nous devrions annoncer la labellisation de ces nouvelles cités éducatives à l'automne prochain.
Après les drames qu'on a malheureusement pu voir ces derniers jours, qu'on a vécu, ces cités, elles sont aussi victimes d'agressions. On les a vues, d'agressions. On a des agressions au couteau, on a des agressions au couteau qui partent de simples embrouilles sur Snapchat. Est-ce qu'il ne serait pas temps, justement, au collège, au lycée, d'éduquer nos jeunes sur la question des réseaux sociaux et de la violence?
Alors l'éducation, vous savez, je crois que l'école peut beaucoup, l'école fait beaucoup, mais il faut aussi rappeler aux parents quel est leur rôle et quelle est leur place. Et justement, à travers ces cités éducatives, c'est un dispositif parmi tant d'autres, mais puisqu'on est dessus, c'est l'occasion aussi pour nous de travailler sur la parentalité. Typiquement. À l'école, évidemment, que l'on a une éducation au réseau, aux médias, au numérique, ça, on y travaille, nous, avec nos élèves. Mais il faut aussi que les parents reprennent toute leur place. Et moi, mon objectif, c'est de faire à nouveau entrer les familles dans l'école, qu'elles reprennent aussi leur place dans l'école. Ça a été un petit peu difficile du fait de la situation sanitaire, mais j'espère que ça ira mieux à la rentrée.
C'est-à-dire que c'est aux parents aussi de prendre leurs responsabilités sur ces sujets-là?
Absolument, bien sûr.
Nathalie Limas, vous êtes autre sujet candidate au régional sur la liste de Laurent Saint-Martin, donc en région Île-de-France. Selon notre sondage IFOP fiducial pour le JDD et Sud Radio, le candidat de la majorité n'arrive qu'en troisième place, 15%, contre 33% pour Valérie Pécresse, 16% pour le RN Jordan Bardella. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité n'y arrive pas, ça ne prend pas pour ces régionales?
Vous dites troisième place, mais vous oubliez de dire qu'on vient de prendre plus de 4 points. dans les sondages. Donc la dynamique, elle est là, elle s'installe. C'est vrai que Laurent Saint-Martin a peut-être un déficit d'image parce qu'il est moins connu évidemment que la présidente sortante. Pour autant, on a un très beau projet. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, redire et marteler, c'est que Laurent Saint-Martin est candidat à la région et rien qu'à la région, ce qui n'est pas le cas de la présidente sortante, qui finalement va faire de ce temps des régionales un marchepied pour autre chose, c'est-à-dire pour la présidentielle. Donc ça, il faut évidemment le redire. Demain, nous allons annoncer aux franciliens notre projet. Vous verrez que c'est à la fois un projet qui est très concret, qui répond très concrètement aux attentes et aux besoins des franciliens, mais qui est également ancré dans la durée, dans le temps. Il y a aussi une vision dans le projet et dans le programme de Laurent Saint-Martin, ce qui n'est là encore une fois pas le cas de ce que souhaite faire la présidente sortante. J'ai été élue avec elle pendant 5 ans, j'ai été loyale, d'ailleurs j'ai voté le dernier budget sans aucune difficulté puisque c'était mon contrat de mandature. Mais sur ces 5 années, eh bien il y a eu 2 ans pendant lesquels on a beaucoup travaillé et puis 3 ans pendant lesquels on a fait que de la gestion. Alors pendant ce temps-là, c'est vrai qu'elle organisait, elle montait son mouvement, peut-être qu'elle se préparait aussi pour les présidentielles, mais en tout cas ça n'est pas ce dont ont besoin les franciliens et puis surtout les régions. Elles sont un formidable levier, un formidable outil de la relance.
Et donc, on doit s'y consacrer à 100%. Qu'on ait 15 membres du gouvernement qui soient justement candidats sur ces élections régionales, départementales. J'imagine que dans le contexte actuel, vous avez d'autres choses, d'autres dossiers à traiter, à gérer.
Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je travaille beaucoup, je me déplace beaucoup et je vais continuer à le faire. Simplement, je vais peut-être un petit peu moins dormir. Ensuite, 15 membres du gouvernement sont en campagne. Quand on n'est pas en campagne, on nous dit qu'on est complètement déconnecté des réalités. Quand on est en campagne, on nous dit « Oh là là, mais vous lâchez vos dossiers, vous êtes en campagne. » Mais vous savez, faire campagne, c'est faire de la politique. Voilà. Une élection, c'est faire de la politique. On est très heureux de le faire. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis très heureuse de le faire. Depuis que je suis au gouvernement, je me déplace chaque semaine. 2 fois par semaine, je vais sur les territoires dans le cadre, dans le champ de mon périmètre ministériel. Et bien là, je vais le faire un peu plus dans mon département du Val d'Oise, qui est un département qui est enclavé, qui est le département le plus jeune de France, qui mérite qu'on s'y attelle, qu'on s'y attache. Et donc, je vais le faire avec beaucoup de plaisir.
Dernière question, je ne sais pas si je vais vous fâcher là-dessus, mais est-ce qu'une alliance possible au second tour avec Valérie Pécresse est envisageable ou alors c'est niet pour la majorité, bien sûr.
C'est bien de parler du second tour, mais c'est toujours mieux d'arriver le mieux et le plus haut possible au premier tour. Donc c'est exactement ce que l'on est en train d'essayer de faire. On travaille vraiment à remobiliser l'électorat d'Emmanuel Macron, l'électorat Renaissance, encore une fois, avec un programme, un projet qui est très concret, qui est réaliste, qui est chiffré et qui sera dévoilé demain. Et surtout, la volonté de ne pas opposer, c'est exactement ce que fait la sortante, de ne pas opposer la région à l'État, mais de travailler ensemble à la relance de l'économie, parce que c'est ce que méritent les Franciliens.
Merci beaucoup Nathalie Lina, je rappelle, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, également candidate donc au régional Île-de-France sur la liste de Laurent Saint-Martin. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Allez, Sud Radio, 7h59, dans un instant, c'est le retour des infos avec Félix Mathieu, et puis on parlera de la situation dans un quartier bordelais, du côté du Bacalan, où un variant anglais a été découvert avec ce cluster et ses 19 000 doses qui vont être débloquées donc pour ce quartier. Restez bien avec nous dans le Grand Matin.
La météo Sud Radio.
Et à 8h03, la météo, c'est avec vous Rémi André. Bon, une météo encore compliquée aujourd'hui avec notamment 2 perturbations.
Oui, effectivement. Alors la première perturbation, on la retrouve depuis les bords de la Méditerranée jusqu'à la Provence, la Côte d'Azur, les Alpes du Sud et la Corse. Elle donne de la pluie qui se calmera sur le continent dans l'après-midi, mais sur la Corse, cela donnera des orages. Ce matin, on a un petit peu de soleil entre Tarbes, Saint-Girons, Toulouse et Aurillac. Bien là, les nuages arrivent. En fait, c'est la deuxième perturbation qui est actuellement entre l'Aquitaine, le centre, mais le bassin parisien jusqu'au nord. Eh bien, cette perturbation va gagner du terrain en perdant tout de même de l'activité en direction du sud-ouest et de la Lorraine. À l'arrière, on a maintenant un temps d'orage et d'averse qui sévit sur la Bretagne, une partie de la Normandie. C'est ce temps instable qui va gagner du terrain dans l'après-midi sur une bonne moitié nord.
Merci beaucoup Rémi André. Excellente journée avec Sud Radio. Bon courage aux travailleurs de la Pentecôte. Il est 8h04.
Sud Radio. Parlons vrai.
Et le journal tout de suite avec un petit peu de retard. Désolé, c'est avec vous Félix Mathieu. Bonjour Félix.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. 7 millions de professionnels prioritaires dès aujourd'hui pour la vaccination. Cela concerne notamment les commerces d'alimentation en attendant le vaccin pour tous les majeurs dans une semaine. Épidémie en baisse, même si les autorités de santé restent sur le qui-vive. Variant mutant à Bordeaux, reprise des terrasses, la vente d'alcool à emporter interdite par endroit. Allô Kylian, c'est Emmanuel. Un président de la République devrait-il faire ça? Le coup de com' à double tranchant du chef de l'État avec deux youtubeurs, analyse d'un politologue dans ce journal. Et puis gros week-end de ballons ronds et ovales en football. Les Lillois champions de France, ils raflent le titre au PSG en Ligue 1 hier soir, au lendemain du 5e sacre européen des rugbymen toulousains face à La Rochelle. 23 000 vaccinés à la première dose et bientôt 10 000 pour la seconde. La vaccination continue à progresser en France. Dès aujourd'hui, 7 millions de professionnels deviennent prioritaires une semaine avant l'ouverture sans restriction à tous les majeurs. Enseignants, conducteurs de bus, chauffeurs de taxi, policiers, gendarmes ou encore patrons et salariés des commerces d'alimentation désormais éligibles, sans limite d'âge donc. L'alimentaire et le commerce, forcément en première ligne depuis le début de la pandémie, Capucine Jaffé.
Julien est fromager dans une boutique du 12e arrondissement de Paris. Désormais prioritaire à la vaccination, il découvre la nouvelle comme certains commerçants du quartier.
Mais c'est très bien qu'ils mettent ça en place. Après, j'aurais préféré qu'ils le mettent avant, puisqu'en soi, nous, ça fait quand même maintenant une bonne année qu'on travaille avec le coronavirus.
C'est aussi avec beaucoup d'enthousiasme qu'Éléonore, 24 ans, accueille la nouvelle. Vendeuse dans une épicerie fine, elle souhaite se faire vacciner.
C'est vrai que oui, moi, ça me fait un petit peu peur. Et c'est vrai que justement, du coup, je suis assez contente que cette mesure soit mise en place. Parce que du coup, on sera un peu plus protégé quand même au quotidien.
Roger Forest, lui, est déjà vacciné. Vendeur dans un commerce de fruits et légumes du 10e arrondissement de Paris, il reste inquiet.
La 4e ou la 5e vague, moi, ça me fait peur. Hein. Parce que vous avez vu, tout le monde en terrasse. On mange un petit steak, on n'a pas le masque. On rigole, on boit, on picole. Et est-ce que ça ne va pas nous ramener des petits virus à la rentrée en septembre?
Depuis vendredi dernier, il est possible de réserver des créneaux de vaccination. D'après le gouvernement, plus de 7 millions de professionnels peuvent bénéficier de ce dispositif.
Reportage signé Capucine Jaffé. 19 000 doses de vaccins affectées de toute urgence d'ailleurs au quartier de Bacalan à Bordeaux où un variant mutant plus contagieux a été détecté chez 50 patients. Les autorités de santé vont ouvrir un centre de vaccination éphémère en espérant casser les chaînes de transmission. Épidémie par ailleurs en baisse. Du coup, une randonnée sans masque, une journée à la plage à visage totalement découvert. C'est désormais possible. Direction le Var, où depuis quelques jours, le préfet a assoupli la règle. Le masque qui n'est désormais plus obligatoire dans les espaces naturels, comme les forêts et les plages. Encore un peu plus de liberté. Ça fait vraiment beaucoup de bien, nous confie Marie-Sophie Septier, commerçante à Saint-Cyr-sur-Mer.
C'est une bonne chose. De toute façon, il y a peu de gens qui le gardent, le masque. Vous vous imaginez aller à la plage avec un masque ? Bonjour les traces. Non, c'est pas possible. Alors certains le garderont tout le temps, d'autres l'enlèveront. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est du bon sens. Si on est collé à la plage, on fait attention. Oh que oui, c'est bon pour le tourisme. La réouverture des magasins, l'accès aux plages, bien sûr que c'est bon. On en a tous envie. J'ai pas entendu personne râler depuis mercredi. Tout le monde est content, tout le monde veut de la joie, de la gaieté, du soleil, des belles choses. Voilà ce qu'on veut.
Voilà ce qu'on veut des propos recueillis par Lionel Maillet. D'un autre côté, la vente d'alcool à emporter interdite dans plusieurs villes de France, dans la Somme, en Indre-et-Loire ou encore dans les Pyrénées-Atlantiques. Les préfets prennent des mesures pour éviter les débordements. Interdiction de boire de l'alcool en dehors des terrasses, une mesure plutôt bien accueillie forcément par les professionnels de la restauration qui appellent à la vigilance, à l'image d'Yves Larouture, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière des Pyrénées-Atlantiques.
Pour ceux qui peuvent vendre de l'alcool, les restaurants qui font du cliquet de collecte encore, ça peut engendrer des dérives par rapport au couvre-feu. Les gens continuent à consommer de l'alcool avec des verres qui se sont procurés avant. Ou que les gens fassent du bruit dans la rue, et ce qui fait que ça pourrait compromettre aussi l'ouverture et le couvre-feu à 23h au 9 juin. Donc on doit continuer à vivre et à survivre parfois pour certains, mais pas à n'importe quel prix. Donc là, on nous recommande d'être un peu prudents. On est prudent, on est déjà raisonnable et raisonné, donc pour nous c'est une bonne chose.
Propos recueillis par Clément Barguin. L'Italie endeuillée, la chute d'une cabine a tué 14 personnes dans une station balnéaire du nord du pays. Parmi eux, 5 touristes israéliens ainsi qu'un enfant qui a succombé à ses blessures à l'hôpital. Gérald Darmanin annonce porter plainte contre Audrey Pulvar. Réaction du ministre de l'Intérieur au propos de la tête de liste PS aux élections régionales en Ile-de-France. Elle avait jugé glaçante la manifestation de policiers devant l'Assemblée nationale la semaine dernière. Les slogans contre la justice qui ont été lancés à cette occasion. Sud Radio, 8h09, on était habitué aux interviews présidentielles, au ton plutôt solennel, on pourrait dire même pompeux. On était un peu moins habitué à ça.
Kylian, j'ai annoncé la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille.
Impossible.
Ça, c'est beau. La vidéo de plus d'une demi-heure enregistrée par Emmanuel Macron avec les youtubeurs McFly et Carlito, c'était un pari du président. Leur chanson sur les gestes barrières ayant fait plus de 10 millions de vues sur Internet, eh bien, ils ont eu droit de jouer au concours d'anecdotes avec le chef de l'État à l'Élysée. Une espèce d'interview au ton très décalé. L'exercice de communication était périlleux, mais le chef de l'État a su rester à peu près présidentiel, quand même, estime Bruno Cotrès, politologue et chercheur au CEVIPOF.
Sur l'aspect proprement formel, l'exercice est plutôt assez réussi. On trouve un président de la République qui arrive à trouver le bon dosage entre le fait de rester dans son costume de président de la République avec une scénarisation où Emmanuel Macron est en costume de ville, alors que McFly et Carlito sont en tenue jeune, on va dire. Et en même temps, la posture d'un président de la République qui prend plaisir à s'amuser, à se soumettre un jeu de concours, de défis. Le chef de l'État ne tombe pas dans le travers d'en faire trop. Donc l'exercice au plan formel, je trouve, est assez réussi comme un exercice de communication assez original.
Bruno Cotrès, politologue et chercheur au CEVIPOF. Et puis côté sport, un week-end riche en émotions, en football. D'abord Lille sacrée champion de France. Les nordistes succèdent au PSG, un point devant Paris, après leur victoire 2-1 hier soir face à Angers. En rugby, 5e titre de champion d'Europe pour le Stade toulousain. C'était samedi face à La Rochelle à Twickenham en Angleterre. Mais les joueurs toulousains n'ont pas pu fêter leur retour à Toulouse avec les supporters pour cause de restrictions sanitaires de la préfecture. Le président du club, Didier Lacroix, promet des jours meilleurs.
On ne pourra pas, pour l'instant, fêter quoi que ce soit. Il faut se rendre à l'évidence là-dessus. Donc on va donner rendez-vous à l'ensemble de notre public à la fin de la saison. Et là, effectivement, on essaiera, dès lors que ça nous sera autorisé et dès lors qu'on aura sécurisé le plus grand nombre de personnes possibles, peut-être pas place du Capitole, peut-être dans un stade, dans un moment où les conditions sanitaires nous le permettront.
Et voilà, Toulouse ou côté foot, on connaît désormais l'adversaire des barrages pour tenter la remontée en Ligue 1. Il faudra affronter Nantes qui, de son côté, tentera de ne pas descendre en Ligue 2. Et puis un mot de l'OM qui, de son côté, se qualifie. On les reverra jouer en Ligue Europa la saison prochaine.
Oui, un groove de soulagement pour les Marseillais. Merci à vous, Félix Mathieu.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
Et je vous rappelle notre question du jour, alors que la campagne de vaccination continue de s'ouvrir, de nouvelles catégories aujourd'hui. Et vous, êtes-vous déjà vacciné contre le Covid? Pour l'instant, vous répondez non, assez majoritairement, à 68% sur Twitter. Vous continuez bien sûr de voter sur nos réseaux sociaux. Et puis vous nous appelez, tenez 0826-300-300. À suivre le coup de com' de Macron avec les youtubeurs McFly et Carlito, on en parlait à l'instant. Un coup de com' qui a énervé Elisabeth Lévy, vous l'entendrez dans quelques instants. Et puis l'édito Écho d'Éric Revel, un grand congrès enfin en présentiel. Alors ça se passe en Espagne avec pour thème le tourisme. Et tout de suite, c'est à la une sur Sud Radio. 19 000 doses de vaccins débloquées pour un quartier entier de Bordeaux, le quartier de Bacalan, où un variant anglais inhabituel a été détecté à l'origine d'un cluster d'une cinquantaine de personnes. Pour en parler, je reçois le professeur Denis Malvy, infectiologue au CHU de Bordeaux et membre du conseil scientifique. Bonjour professeur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, que sait-on de ce variant qui est présenté comme plutôt préoccupant?
Alors, c'est un variant qui avait déjà été repéré auparavant, qui est un variant issu du variant anglais qui, comme vous le savez, a pris le pas sur le vieux variant, sur le vieux virus historique. Et c'est un variant qui exprime une mutation qui est associé à une majoration de la transmissibilité. Jusqu'à présent, il avait été repéré de manière sporadique. Il avait concerné quelques établissements institutionnels, des résidences, des EHPAD extrêmement rares et faciles à circonscrire avec des mesures de surveillance et de vaccination en anneau. L'originalité de ce qui se passe à Bordeaux, et c'est ça qui nous préoccupe, c'est que dans un grand quartier, un quartier assez ample, il y a la constitution cette fois-ci de clusters en diffusion communautaire difficile à contrôler. Donc ça c'est inédit, et c'est pour cela qu'il y a une réponse de type territorial.
C'est-à-dire qu'on est dans un milieu ouvert en gros.
On est dans un milieu ouvert, on est dans la société, on n'est pas dans des résidences, dans un milieu ouvert avec des chaînes de transmission dans la population. Et là, la réponse, il faut qu'elle soit différente, ça ne peut pas être de simples mesures de surveillance circonscrites. Pour freiner l'expansion de ce virus associé à une transmissibilité plus élevée, on a mis en place dès la semaine dernière et en 4 jours, avec une coopération entre la communauté, les élus, le CHU de Bordeaux et les autorités sanitaires, des mesures de testing, hein, de screening, de prélèvement, donc tester, tracer,
isoler. Parce qu'on parle beaucoup de la vaccination, mais effectivement, le testing est très important à ce niveau-là, ouais.
C'est la base, et il y a deux pieds pour cette réponse. C'est dans un contexte de solidarité, de responsabilité et de confiance, et la population est confiante et on la remercie, le tester, tracer, isoler, complété par la vaccination, qui cette fois-ci ne peut pas être la vaccination en nano à cause de la diffusion communautaire, qui est une vaccination inédite, massive, transgénérationnelle, et qui anticipe l'ouverture aux jeunes, puisque dès l'âge de 18 ans, d'une manière proactive cette fois-ci, et pas seulement sur une base d'annonce, hein, comme ce que vous avez annoncé tout à l'heure, d'une manière proactive, offensive, cette vaccination va être proposée dès demain matin, avec ce centre éphémère qui est déjà tout à fait opérationnel, pour, avec le testé, circonscrire la diffusion et freiner...
Dès demain, parce qu'on avait la date de mercredi, ça sera finalement à partir de demain.
Oui, enfin, nous sommes sur place, nous sommes prêts à travailler.
D'accord.
Si c'est mercredi, nous ne serons pas à 12h près, mais nous sommes prêts à déployer le deuxième regard de la réponse à côté du testé.
Mais qui dit, alors dernière question, hein, qui dit vaccination, ça veut dire qu'on a une idée de l'efficacité justement de ces vaccins face à ce variant en particulier ? Ça marche ?
Alors, ce variant, on voit qu'il affecte beaucoup les générations. Ce sont pour le moment des jeunes qui sont repérés, et le fait qu'il n'y ait pas de personnes avancées en âge, dans un contexte où la vaccination a été déployée dans la métropole bordelaise et le 33 et la Gironde, montre bien que les personnes qui ont été en contact avec le vaccin, qui ont déjà eu au moins une dose, sont pour le moment protégés. Mais ce n'est pas une raison pour qu'un virus très très transmissible se mette à être négligé. Ensuite, on apprend en marchant, avec beaucoup de vigilance.
Bien sûr.
L'émergence de variants autochtones, elle est inéluctable. C'est pour ça qu'on est dans un processus à la fois de vigilance et en même temps de freinage. C'est la différence des variants indiens qui, eux, sont importés, sur lesquels on veut être exclusif, on ne veut pas d'eux sur le territoire. Donc, en même temps, nous allons continuer à observer ce que font ces mutations associées aux variants autochtones. On sait qu'ils sont associés à une majoration de la transmissibilité. On saura si, en termes d'échappement immunitaire ou de dangerosité, entre guillemets, il faut également avoir un accent de vigilance particulier. Ce phénomène, il est inéluctable, mais on sait qu'il n'est pas infini dans le temps. Le virus va finir lui aussi par se fatiguer. Donc c'est une course-poursuite entre les tentatives d'adaptation du virus et puis nous autres, la célérité, la vitesse avec laquelle on va acquérir l'immunité collective. Et à Bordeaux et dans le 33 où le virus a jusqu'à présent pas trop circulé, les virus, pour acquérir cette immunité collective, il faut se faire vacciner et le faire très vite.
Eh bien, merci beaucoup pour votre clarté et vos précisions, professeur Denis Malvy. Je rappelle que vous êtes infectiologue au CHU de Bordeaux, également membre du conseil scientifique Covid-19. Bonne journée à vous et merci. Allez, 8h18 sur Sud Radio, comme toujours, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Benjamin.
Et alors, comme beaucoup d'internautes hier, eh bien, vous aussi, la vidéo du chef de l'État avec les youtubeurs McFly et Carlito vous a un peu énervé, agacé.
Oui, alors je dois être un boomer grincheux, hein, cher Thierry Guerrier, parce que ça ne m'a pas seulement énervé en voyant le président de la République se faire traiter par les deux youtubeurs comme un copain, hein, avec des grosses blagues, des grimaces, des tirages de langue. Eh bien oui, je me suis senti humilié, hein, tout ça pour avoir les 6,5 millions d'abonnés des duettistes. Et d'ailleurs, ses communicants étaient très fiers d'arborer leurs millions de vues le soir et leurs likes, hein, des centaines de milliers de likes le soir. Alors, j'ai trouvé cet exercice très embarrassant, hein, contrairement au politologue qui était interrogé dans notre journal, Monsieur Cotteret, je crois.
Oui.
J'ai trouvé cet exercice très embarrassant. Vous savez, comme quand un comique pas drôle pérore, par exemple, sur France Inter, et qu'il y a des rires forcés dans le studio. Ah, pas chez nous. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. C'était le niveau d'un spectacle scolaire de fin d'année ou du Hanouna des mauvais jours. Et c'est plutôt insultant pour la jeunesse de croire qu'il suffit de sortir Kylian Mbappé de son chapeau pour la séduire, comme si les jeunes n'avaient pas d'idée. Alors j'ignore s'il ira jusqu'à exécuter piteusement son gage et à exhiber le 14 juillet la photo des youtubeurs, mais Thierry Guerrier, qu'on pourra donc réécouter en podcast, hein, a raison sur ce point. Il est peu probable que Macron gagne le vote de la jeunesse avec ce spectacle. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce qu'il perd, à supposer qu'il ne l'ait jamais eu. Et je dirais que c'est quelque chose comme, puisque nous sommes de lundi de Pentecôte, quelque chose comme le mystère de l'incarnation.
C'est joliment dit. Bon, enfin, pardon ma chère Elisabeth, mais sans être vexant, vous n'êtes peut-être pas la cible première de ce coup de com'. Le président s'adresse, mais non, j'oserais pas, la preuve. En tout cas, le président s'adresse, on va dire, aux très jeunes.
Dans leur langage. Aux jeunes, dont je ne fais plus partie. Oui, ils leur parlent et ils leur parlent dans leur langage et c'est bien le problème. C'est ça la manie des politiques, c'est de parler comme leurs électeurs. Un peu comme quand on bétifie, vous savez, en s'adressant à des bébés areux. Donc là, on veut faire jeune puisqu'on parle aux jeunes. Alors, la première phrase, hein, qui a été aussi relevée dans notre journal, moi, je l'ai trouvée vraiment terrible. Ici, il n'y a pas de hiérarchie. Si, c'est le président de la République. Et toute l'arnaque de la proximité est là. Hein. On va vous donner des dirigeants aussi médiocres que vous, des dirigeants qui vous ressemblent. Mais non. Ce que demandent les Français, ce qu'il nous faut en tous les cas, c'est de la verticalité. Hein. On veut des dirigeants meilleurs que nous. Et ce qu'on attend d'eux, ça n'est pas qu'ils parlent la langue des bistrots ou des boîtes de nuit, c'est qu'ils l'entendent. Et j'ajoute que le président de la République n'a pas de followers, mais il a des électeurs. Ouais. Voilà. Et alors le plus, cher Benjamin, pour finir, c'est que la grande constante du discours de Macron, hein, c'est les Français sont orphelins du roi, il y a la place vide du roi. Eh bien, je suis désolé, mais ce n'est pas comme ça qu'il va l'occuper, alors qu'il se rappelle qu'il représente le peuple souverain et qu'il arrête de nous casser les codes.
Ah, c'est poliment dit, ça, Elisabeth Lévy. Merci beaucoup, en tout cas, votre regard libre à retrouver en podcast, là aussi sur notre site sudradio.fr. Très bon lundi à vous, Elisabeth. Allez, à 8h21, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le grand matin. On passe ce jour férié à vos côtés, comme toujours, jusqu'à 10h avec, dans un instant, l'édito écho d'Éric Revel sur le premier grand salon en présentiel d'Europe. Il se tiendra à Madrid et aura pour thème le tourisme. Et puis, je n'oublie pas, on en parle, tout ce qui buzz sur les réseaux sociaux avec Maxime Troulot. On va parler, je crois, football. Je vous en dis pas plus. Très bon réveil avec Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
8h25 sur Sud Radio, avant de retrouver Éric Revel pour son édito écho. Tout de suite, à chaque on parle avec vous, Maxime Troulot. Et Lille est donc devenu officiellement champion de France de Ligue 1 après sa victoire contre Angers hier soir. Lille qui a résisté jusqu'au bout au PSG. Des Lillois forcément ivres de bonheur hier soir, tandis que le club parisien et ses millions d'euros se fait largement chambrer, hein, sur les réseaux sociaux. Hein.
Et oui, on entendait tout à l'heure, hein, les supporters de Toulouse en rugby. Les Lillois, ouais, eux aussi, se sont rassemblés sur la grande place. Hein.
Hey, l'ambiance.
Absolument. Ouais.
Vous avez bien coupé. Ouais.
On t'embrasse peut-être, hein, Benjamin, non?
Non, je suis pas sûr que c'était ça, mais vous avez bien fait de couper, effectivement.
Allez, les Lillois étaient donc tout heureux, hein, d'être champions de France 10 ans après. Hein. Ils ont fêté ça dans la joie et la bonne humeur et n'ont donc pas oublié de chambrer les Parisiens. Cette bonne guerre, c'était le cas. Sur Twitter, Eran qui dit par exemple: Lille qui gagne la Ligue 1 gratuitement grâce à Burak Yılmaz, l'attaquant de Lille, sans dépenser 500 millions pour Neymar et Mbappé. Et ou alors Siempre qui chambre Neymar qui, je cite, est parti de Barcelone pour ne plus être dans l'ombre de Messi, pour au final l'être dans celle de Burak Yılmaz, 36 ans. Neymar qui a même été chambré d'ailleurs par les supporters de l'OM, figurez-vous. Balessimo compare ainsi les buts de l'attaquant du PSG avec ceux de Milik, l'attaquant de l'OM.
Benjamin, ce magnifique titre de l'équipe pour saluer la performance de Lille, les plus hauts de France.
Exactement.
Les plus hauts de France, c'est un très très beau titre.
Très beau jeu de mots, effectivement, puis hommage à nos régions. C'est important. Bon, dans votre édito éco, Eric, on va pas forcément parler de football, on va parler tourisme ce matin, puisque le secteur touristique, on le sait, est essentiel à l'économie française, même si le soleil n'y est pas forcément, mais le besoin de vivre fait monter en tout cas les additions aux terrasses et les réservations pour cet été grimpent, hein, Eric.
Oui, c'est vrai. Alors globalement, on peut se le dire, c'est une bonne nouvelle. Hein. Le secteur touristique a l'air de redémarrer plutôt sur les chapeaux de roue, même si, vous avez raison, et c'est vrai, dans le sud de la France et sur la Côte d'Azur, le soleil n'y est pas vraiment, en tout cas pas aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de régions en France, mais aussi en Europe, sont en train de rivaliser en campagne de communication pour attirer les futurs touristes estivaux. Alors vous l'avez dit, les terrasses en France déjà ne désemplissent pas, et les restaurateurs, autant qu'on peut les regarder dans les yeux parce qu'ils sont occupés, ils ont l'air de retrouver le sourire. Même si les spécialistes, c'est à noter, estiment que le niveau touristique pour son retour à la normale n'interviendra pas avant au moins 2023.
Ouais. Alors il y a ce très gros congrès international dans ce contexte, consacré au tourisme en Espagne, tout un symbole de ce redémarrage pour un secteur au niveau européen et mondial aussi.
Oui, plusieurs symboles, symbole de la relance mondiale dans le tourisme, effectivement, jusqu'à hier, se tenait à Madrid, la foire internationale du tourisme, où, écoutez bien, les représentants de 55 pays se sont retrouvés pour tenter de réactiver le tourisme international. Alors, c'était le premier grand événement mondial en présentiel. On n'a plus l'habitude de se rendre sur place en présentiel. Et ça s'est tenu en Europe, donc à Madrid, depuis que la pandémie a démarré. Et puis, autre symbole aussi, cette foire internationale, Benjamin, du tourisme, s'est tenue au Palais des Expositions de Madrid. La même où, lors de la première vague, ce palais avait été transformé par les autorités espagnoles en un gigantesque hôpital de campagne pour les malades de la Covid-19. Alors le slogan de ce grand rassemblement touristique, un slogan en anglais forcément, mais que tout le monde va comprendre, c'est « Tourism is back », on se le dise, le tourisme est de retour. 21 protocoles sanitaires y ont été dévoilés pendant ce congrès, parce que pour beaucoup de pays en Europe, l'Espagne, l'Italie, mais aussi la France, la manne financière touristique est évidemment déterminante.
Bon, il y a quand même des activités touristiques qui vont rester en cale sèche, Eric.
Oui, cale sèche. Vous avez raison. La pandémie va laisser des traces dans le secteur touristique. Je pense par exemple, puisque vous parlez de cale sèche, aux croisières maritimes.
Ouais.
Est-ce que les touristes vont avoir envie de se retrouver confinés dans des bateaux pour des périples en mer, pour ceux qui financièrement peuvent le faire? C'est une vraie question, me semble-t-il. Et puis, autre question, la mise en place d'un passeport vert, vous savez, dont on parle, Benjamin, en Europe, pour pouvoir y voyager. Est-ce que ce passeport ne constituera pas un frein au déplacement? Tout le monde ne va pas tolérer de devoir montrer patte verte pour pouvoir voyager. Alors, 2-3 chiffres pour terminer, pour qu'on comprenne bien l'importance de ce secteur touristique pour un pays comme le nôtre. C'est 7,5% du PIB français, c'est-à-dire de la richesse annuelle créée, 170 milliards d'euros par an, plus de 2 millions d'emplois salariés et non salariés, sans compter les emplois directs ou indirects. Mais c'est aussi, Benjamin, un secteur très très endetté, avec ses 10 milliards d'euros de prêts d'État garantis, vous vous souvenez, contractés pendant la crise sanitaire. Voilà un secteur touristique essentiel à l'économie française, mais aussi aujourd'hui très très fragilisé.
Merci beaucoup Eric Revel, votre édito éco. On vous retrouve dans un petit quart d'heure maintenant pour le petit déj de l'actualité, et ce sera l'occasion de revenir bien sûr sur ce tourisme qui va repartir, qui commence à repartir aussi avec ce week-end de la Pentecôte. On l'a vu avec nos invités juste après le journal de 7h. Allez, dans un instant, justement, je parlais des infos, ce sera le retour des infos avec en l'occurrence François Germa, sans oublier la revue de presse. À tout de suite sur Sud Radio. Et on prend le temps de se réveiller à vos côtés, ensemble sur Sud Radio. Très bonne journée à tous, il est 8h35. Sud
Radio. Parlons vrai.
Les infos, le journal avec vous, François Germa, bonjour.
Bonjour à tous. Une nuit de fête à Lille après le sacre du LOSC, champion de France de football. Les Lillois plus forts que le PSG cette saison. Vous entendrez la réaction de Kylian Mbappé. Alors que les doses de vaccins contre le coronavirus arrivent massivement en France, changement de stratégie pour la solution à ARN messager de Moderna. Elle sera à présent disponible dans les pharmacies et chez les médecins. Et puis on reviendra sur la vidéo d'Emmanuel Macron avec les humoristes McFly et Carlito. Une stratégie de communication qui pourrait se retourner contre le président, selon certains. Vous le verrez. La nuit a été courte à Lille. Malgré le couvre-feu, des milliers de supporters ont déferlé dans les rues après le sacre du LOSC, champion de France de football, grâce à sa victoire 2-1 à Angers hier soir. Cela faisait 10 ans que les Lillois attendaient de célébrer un nouveau titre en Ligue 1. Un sacre d'autant plus remarquable que le LOSC a su dompter le PSG. Malgré leur succès 2-0 à Brest, les Parisiens finissent deuxième à un petit point de Lille. En guise de consolation, Kylian Mbappé termine meilleur buteur du championnat. À la fin de la rencontre, le Parisien était déjà tourné vers l'Euro et vers la saison prochaine, même si son avenir reste encore flou. Écoutez-le au micro de Canal+.
Finir meilleur buteur du championnat 3 fois de suite, c'est une énorme fierté. Je suis très content. Maintenant, je crois que c'est pas le moment de montrer la joie. Voilà. Il faut rester tranquille et on va rentrer tranquillement et on va se préparer pour la sélection. Je peux pas te dire ce qu'on doit faire. Je suis pas non plus, je suis que joueur, mais je pense que les gens, ils ont vu. Tout le monde a vu. Je pense que quand les gens voient, c'est plus facile. Ensuite de tirer des conclusions, mais il n'y a pas de soucis. Voilà, on a perdu le titre. Maintenant, il faut se concentrer sur le futur.
Kylian Mbappé, dont l'avenir reste donc incertain, mais le président du PSG l'a assuré hier soir, l'international français va rester au club à 100%. Affaire à suivre. À retenir de cette dernière journée de championnat, Monaco 3e jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour Lyon, 4e, ce sera la Ligue Europa. En bas de tableau, Nantes est barragiste et tentera de sauver sa place en Ligue 1 lors d'une double confrontation cette semaine face à Toulouse. Également dans l'actualité, un nouvel élargissement pour la vaccination. À partir d'aujourd'hui, tous les professionnels prioritaires peuvent recevoir une injection et ce, peu importe leur âge. Cela concerne notamment les enseignants, les forces de l'ordre ou encore les conducteurs de bus. En parallèle, ne cherchez plus de vaccin Moderna dans les centres de vaccination. Il est à partir de cette semaine uniquement disponible en ville, en pharmacie et chez les généralistes. Clémence Lobary.
Et oui, c'est une nouvelle étape de la campagne de vaccination. Au total, 300 000 doses de vaccin Moderna vont ainsi être distribuées aux professionnels de santé en ville, soit les 2/3 des 440 000 livraisons hebdomadaires habituelles. Et les doses restantes serviront à assurer les secondes injections. En revanche, les Français vont devoir attendre encore un peu avant de recevoir une dose. Les injections devraient ainsi débuter le 28 mai prochain en pharmacie et chez son médecin. Mais les volontaires peuvent déjà s'inscrire sur une liste d'attente. Et puis pour ceux qui ont déjà reçu une première injection de ce vaccin dans un centre de vaccination, ils pourront toujours s'y rendre pour recevoir leur seconde dose.
Pendant ce temps, la décrue se poursuit dans les hôpitaux français. Le nombre de malades hospitalisés pour le coronavirus continue de baisser, y compris dans les services de réanimation. Ce week-end, on est passé sous la barre des 20 000 hospitalisations. Ce n'était plus arrivé depuis le mois d'octobre. Gérald Darmanin porte plainte contre Audrey Pulvar pour diffamation. Le ministre de l'Intérieur dénonce les propos de la candidate socialiste au régional en Île-de-France. Elle avait critiqué la présence de Gérald Darmanin lors de la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale mercredi dernier. Emmanuel Macron qui participe à un concours d'anecdotes avec la youtubeur McFly et Carlito. C'est une première pour un président. La vidéo sortie hier matin a déjà été vue plus de 7 millions de fois. Mais avec le contexte sanitaire et économique, ce moment de détente pourrait bien être reproché au président. C'est en tout cas ce que pense le communicant Philippe Moreau-Chevrolet. Écoutez.
On a l'impression qu'on est dans une dimension où tout va bien, qu'on est dans un environnement, l'Élysée magnifique, avec des gens sympathiques, McFly et Carlito. Ils font des petites blagues. Et nous, notre quotidien, enfin le quotidien des Français va être le quotidien de la crise économique, du doute, de la crise sanitaire. Et le président, de son côté, lui, va être dans un endroit, une bulle, où tout est magnifique. Alors, est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce qu'ils vont voter sur cette base-là? Ou est-ce qu'ils vont se dire que c'est décalé et bizarre? On aura la réponse en 2022. Mais en tout cas, lui a cette stratégie d'être le monsieur qui va bien alors que tout va mal.
La question de la Biélorussie au cœur d'un sommet européen qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Les pays membres doivent décider d'éventuelles sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Le président biélorusse est accusé d'avoir détourné un avion qui reliait Athènes à Vilnius pour arrêter un opposant. L'Europe dénonce un incident inadmissible. Et puis la victoire de l'Italie à l'Eurovision, tachée par une polémique. Le chanteur du groupe est accusé d'avoir pris de la cocaïne pendant la cérémonie samedi soir, après la diffusion d'images suspectes. Une accusation totalement rejetée par le principal intéressé qui dit n'avoir rien à cacher et va se soumettre à un dépistage. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente matinée sur Sud Radio.
Merci à vous François Germain.
Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise.
8h41, on continue de se réveiller ensemble sur Sud Radio avec bien ce qui fait parler ce matin dans les journaux avec la revue de presse de Maxime Troulot. Et à la une, tout d'abord, eh bien, on commence avec une petite fièvre acheteuse pour le populaire du centre.
Oui, tout à fait, c'était le premier week-end de la deuxième phase du déconfinement et les gérants de magasins et de boutiques s'en réjouissent. Depuis leur réouverture mercredi 19 mai, les magasins du centre-ville de Limoges ont vu revenir les clients en nombre, sauf quand il pleut, explique le journal qui rappelle l'importance de la météo. Mais les clients étaient bien là ce week-end, ils étaient impatients de revoir du monde, témoigne une responsable. L'une d'entre elles souligne aussi la période cruciale que sera les soldes. On est confiant pour la suite, il nous reste beaucoup de stocks qu'on essaiera de proposer pendant les soldes justement.
Déjà 100 000 Français produisent leur électricité, ça c'est à lire dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France.
Et oui, 100 000, le nombre d'autoconsommateurs a bondi en 5 ans, explique le Parisien, qui rappelle que l'investissement de départ est conséquent. Il permet de réduire sa facture amortie en une dizaine d'années. Interrogé par le journal, Jean-Louis, habitant dans l'Ain, explique avoir déboursé par exemple 12 000 euros pour 20 panneaux solaires. De 2 200 euros apparemment, je suis passé un peu plus de 1100 euros pour un matériel garanti 20 ans. La France reste tout de même loin de l'Allemagne dans ce domaine où 1,2 million d'habitations sont déjà équipées, mais l'électricité est 20% plus chère outre-Rhin.
On reste dans l'électrique, Maxime, avec la voiture française du futur. C'est la Dolage D12, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En tout cas, elle est très belle. Hein. Près de 1000 chevaux avec un moteur électrique
elle
de plus
combien
de... Alors, ça, suspense. De plus de 100 chevaux pour la Dolage 12, donc, en une journal du centre. Bleu Sierre aux allures un peu de Formule 1, un bolide créé et assemblé dans la Nièvre par 5 entreprises locales, avec un prix donc très accessible. Pour vous, mon cher Benjamin, 2 millions d'euros.
Ah oui, bah pas du tout, là, je passe mon tour, ça c'est clair.
Voilà, et puis à la montagne aussi, hein, qui fait sa une, sur une supercar née en Auvergne. Ah. Cette fois, elle s'appelle la Aquilon, pour les amateurs. Hein. C'est un mix un peu entre une Bugatti, une McLaren. Celle-ci n'est pas électrique, mais le fruit d'une idée d'un entrepreneur de l'Allier il y a 10 ans. Et elle a fait ses premiers tours de piste à Clermont-Ferrand.
Et puis on en parlait à l'instant dans le journal, hein, Lille, champion de France de football.
Les plis hauts de France titrent l'équipe en une avec les joueurs lillois et son entraîneur Christophe Galtier, élu meilleur technicien du championnat. Il y avait eu Montpellier de René Girard, l'AS Monaco de Leonardo Jardim et il y a depuis hier soir le LOSC de Christophe Galtier. Tous ont devancé le PSG des Qataris. Lille a réussi à remporter le championnat avec une intelligence folle et sans jamais baisser les yeux, écrit Régis Tellin dans son édito du jour.
Et le Parisien aujourd'hui en France qui est plutôt bon joueur puisqu'ils disent bravo aux Lillois finalement. Donc,
oui,
comme quoi,
ah bah oui, pour devancer le PSG, il faut le faire.
On peut... Bravo à eux. C'est ça, bien sûr. Merci à vous, Maxime. Allez, on poursuit cette revue de presse avec eh bien, l'Indépendant en catalan et son rédacteur en chef, Pierre Mathis. Bonjour.
Bonjour.
Et à la une de l'Indépendant, eh bien, Cassex régionalise la RN116. On continue de parler un peu route et voiture avec vous, en fait. Hein.
Oui, alors surtout route, hein, parce que la route nationale 116, c'est un dossier qui est extrêmement important ici dans les Pyrénées-Orientales, puisque c'est vraiment la route, c'est une route de montagne, hein, c'est une route très difficile, celle qui relie Perpignan à Font-Romeu, pour résumer. Mmh. Et c'est un très vieux dossier qui, cet hiver et ces dernières années, il y a eu très souvent des problèmes, des travaux, des interruptions de trafic. Et c'est vrai que Jean Castex est venu à Font-Romeu samedi, donc il est un peu revenu sur son territoire. On l'attendait un petit peu sur ce dossier, ben il est venu avec des réponses, c'est-à-dire qu'il va voter une loi qui permettra à la région Occitanie, celle de Carole Delga, de venir investir sur cette route, j'ai envie de dire stratégique. Mmh. Et c'est vrai que c'est des annonces que le territoire attendait. Bon, maintenant on va voir dans les détails hein, comment tout ça s'organise, notamment sur le plan environnemental. Mmh. Mais c'est effectivement un très gros dossier ici au plan local qui sur lequel on a des débuts de réponse.
Mmh. Et c'est une exclusivité donc de l'Indépendant catalan ce matin. Absolument. Autre sujet aussi à retrouver dans l'Indépendant aujourd'hui, la folle semaine de l'USAP. Hein, on parle de rugby, la Pro D2 avec les demi-finales qui vont pas tarder. C'est le week-end prochain, si je ne m'abuse, c'est ça ?
Dimanche prochain,
exactement,
l'USAP affronte Oyonnax en demi-finale de Pro D2. Il lui faudra aussi gagner la finale derrière. Donc évidemment, la ville va battre vraiment au cœur de l'USAP toute la semaine. Vous savez l'importance de ce club ici. L'idée qu'il puisse remonter en top 14 est extrêmement fort. Et parallèlement, à Narbonne qui est en national, Narbonne joue tout sur un match à Nice, un peu de la même façon, et joue, lui, de son côté, la remontée en Pro D2. Donc une semaine très rugby à vivre dans l'Indépendant. Évidemment, on va suivre ça de très près.
Et bah c'est génial, et donc à retrouver toute cette semaine. Merci à vous dans l'Indépendant catalan. Merci à vous, Pierre Mathis, rédacteur en chef de l'Indépendant. Très bonne journée à vous. Allez, 8h45, tout de suite dans un instant. Eh bien, et c'est le petit déjeuner de l'actualité avec nos chroniqueurs, nos éditorialistes.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h10, Benjamin Glaise.
Et 8h49 sur Sud Radio, les débats sont ouverts avec vous, bien sûr, 0826-300-300 pour agir à l'actualité, nous donner votre avis, ce dont vous voulez parler, en tout cas ce matin avec nos éditorialistes qui sont là, à commencer par Christine Bouillot. Bonjour Christine.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Et puis avec nous également Eric Revel et Thierry Guerrier. Rebonjour messieurs.
Bonjour.
Eh ben bonjour.
Alors, on en parlait tout à l'heure avec Thierry Guerrier sur son édito politique. Alors, vous avez peut-être râlé un petit peu, mais je voudrais qu'on revienne au moins quelques secondes sur cette vidéo à l'Élysée entre Emmanuel Macron et les deux youtubeurs Mike Fly et Carlito, avec Thierry Guerrier qui nous disait d'un côté, il y a un coup de com' réussi vis-à-vis des jeunes, mais en même temps, pour pas faire du Macron dans le texte, en tout cas en même temps, il y a quelques lacunes, notamment celle de croire que finalement, les vues ou par les jeunes, ça va permettre d'avoir des électeurs en plus. Christine Bouillot, déjà par rapport à cette vidéo, est-ce que c'est le rôle d'un président de la République de s'afficher de cette façon-là, au cœur de l'Élysée, pour faire des vidéos comme ça?
Moi, je me souviens d'un président de la République qui faisait de l'accordéon chez lui.
Oui.
Vous vous souvenez pas?
Giscard.
Voilà, pour paraître populaire, parce que son image était décalée par rapport à ça. Autre anecdote,
un autre qui s'est mis, vous vous souvenez, ce casque sur les oreilles, sur la pelouse de l'Élysée, qui s'appelait Jacques Chirac, quand même.
Hein. Oui, ou qui a reçu pour la première fois en chantant I Will Survive et en criant Zizou président en 98. Bon, je dirais rien de neuf. Moi, j'ai croisé avec Toulouse ce week-end énormément de jeunes dans la rue. Alors, puisqu'ils ont fait la fête, comme ils ont pu avec la victoire du Stade Toulousain, c'était très festif. Mais beaucoup ont vu effectivement cette vidéo. Ça a touché effectivement le cœur de cible. Donc la touche, en tous les cas, l'exercice est réussi. Après, je rejoins Thierry. Je suis toujours un peu... on sait que les jeunes, ce sont pas forcément les premiers à aller dans les urnes. On sait aussi qu'ils s'intéressent de loin à la politique tant qu'ils ne sont pas vraiment dans la vie active, quoique maintenant ça commence à changer avec les questions d'environnement, puisqu'ils étaient quand même massivement dans les rues pour pouvoir parler de ce qui les inquiétait pour les années futures. Donc peut-être qu'aujourd'hui il y a effectivement un électorat, ou en tous les cas une clientèle électorale à aller chercher, et tous les partis le font. Regardez bien le RN de l'autre côté, qui va chercher des youtubeuses ou des jeunes influents sur les réseaux sociaux pour attirer aussi un électorat beaucoup plus jeune. Donc il y a rien d'exceptionnel. L'exercice en lui-même, peut-être effectivement dans les ors de l'Élysée, peut paraître pour certains un peu un sacrilège. Moi, j'ai pas trouvé l'exercice raté. Je trouve que les jeunes ont le droit aussi qu'on s'adresse à eux d'une manière un petit peu différente. Alors on va pas dans le fond des dossiers, ça c'est clair. Mais voilà, c'est pas c'est comme tous ces nouveaux réseaux sociaux sur lesquels vont les politiques, les TikTok, tous ces nouveaux réseaux. Je reste quand même persuadée que on va revenir aussi à la... Et on revient toujours à la bonne politique, à l'ancienne. J'ai du mal à croire que ça va complètement bouleverser la donne sur le plan politique.
Bah, celui qui est pas mal sur les réseaux sociaux, c'est Eric Revel. Vous avez regardé la vidéo, vous Eric, vous avez été séduit par cet exercice ou pas du tout?
Oui, j'ai regardé. Alors, séduit non, parce que je suis pas dans la cible, puisqu'on parle de cible. Je suis un peu plus âgé que nos deux.
C'est une vidéo discriminante, en fait.
Ouais, d'une certaine façon. Alors, rien de neuf sous le soleil, tout ça est vrai. Tentative peut-être de ramener au vote une jeunesse qui souvent vote moins que les aînés. Bon, tout ça est dit, tout ça est vrai. Sur le reste, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que voilà, il y a deux France qui me semblent s'opposer, qui paraissent un peu pas réconciliables. Vous voyez, il y a la France émergente, jeunesse, à laquelle je comprends pas forcément toujours grand-chose, mais qui est bien présente. Puis il y a une France, vous parliez des réseaux sociaux, et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Il y a cette autre France qui est un peu ringardisée, qui est montrée du doigt, qui passe pour être une France réactionnaire, mais en fait, qui est une France qui ne veut pas disparaître non plus. Donc, je pense que le président de la République, qui appartient plutôt à la première catégorie, il a 40 et quelques années, il joue à fond cette carte-là, à la fois pour ramener dans le vote une jeunesse qui vote peu, mais aussi pour essayer de marquer des points de ce côté-là. Certains vous diront c'est horrible, c'est avilissant pour la fonction de chef de l'État. D'autres vous diront il fait de la politique politicienne. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, on parle pas de la France, on parle pas du projet, on parle pas de programme. Tout ça est passé un peu. Et puis regardez sur les réseaux sociaux quand même, sans en faire une fixette, mais toutes ces situations d'extrême violence qu'on vit pratiquement au quotidien dans des centres commerciaux. Vous avez vu ça hier en région parisienne, ailleurs sur un stade de foot, je crois que c'était à Créteil. Bon, c'est extrêmement violent. Puis d'un autre côté, on a à présent un public qui fait risette et qui semble avoir déjà oublié que la pandémie était là il y a encore quelques semaines, que le pays est plongé dans des situations de violence extrême. Tout ça semble un peu passer au second plan. Bon, alors si c'est ça faire de la politique, effectivement, j'appartiens à la France à l'autre catégorie, quoi.
Thierry Guerrier, justement, sur cette vidéo, est-ce que ça montre pas aussi, comme elle le disait, là, à l'instant, avec Revel, est-ce que ça va pas tendance à diviser encore plus la France en deux?
Non, diviser, je crois pas. Je crois qu'Éric a raison sur le constat qu'on peut tous faire sur cette idée qu'il y a deux France qui s'affrontent. Pour autant, je pense que le vrai sujet, c'est comment les jeunes eux-mêmes réagissent ou vont-ils réagir. Et c'est leur faire injure que de considérer qu'ils n'auraient pas leur capacité d'analyse. Les mêmes sont capables, comme j'ai essayé de le dire ce matin, de juger sympathique, cool, dans leur code, un président de la République qui finalement est assez jeune et moderne à sa façon. Et les mêmes peuvent être très exigeants quand, et Éric a raison, quant à la nécessité d'avoir un projet, une vision et des résultats. Et c'est là-dessus qu'au bout du compte, malgré tout, ils vont juger le président de la République tous, que fait le président de la République, et s'il a de l'humour, et s'il est capable d'entrer dans ces codes que je ne comprends pas forcément, mais tout ce qu'il fait est politique. Et à cet égard, il y a des exigences et on n'y apporte pas réponse. Donc on va voir comment il va se comporter, parce que ce qui est clair, c'est qu'il a lancé sa campagne présidentielle hier.
Voilà. Oui, Éric Revel.
Oui, non, je disais, on peut même aller plus loin, parce que Thierry a raison, tout est extrêmement politique. Moi, je me suis fait une réflexion, c'est que l'affaire de Youssoufa, ce rappeur qui doit incarner l'hymne des Bleus pendant l'Euro. Non, mais moi, je me suis demandé dans quelle mesure, si vous voulez, ce choix, qui n'est pas un choix anodin et isolé de la Fédération Française de Football, évidemment, si ce n'est pas une façon d'exciter le vote Rassemblement National, et d'ailleurs, le Rassemblement National a mordu à la leçon, et ainsi, parce qu'en fait, quel est le but d'Emmanuel Macron? Il n'en démord pas, il veut absolument avoir Marine Le Pen en face de lui au second tour, puisqu'il est persuadé, lui, qui va la battre. Et agiter l'oripeau Youssoufa, c'est une façon de faire monter le vote Rassemblement National et de sanctuariser l'idée qui se fait de ce second tour de l'élection présidentielle. C'est aussi politique.
En un mot pour terminer, oui, Thierry Guerrier.
Je pense qu'en plus, c'est pour ça, Éric, je pense qu'il ne faut pas sombrer dans le camp des grincheux. Je préfère qu'on me dise OK boomer, parce que j'aurais critiqué le manque de politique.
C'est ce qu'on met aussi, OK boomer.
Je crois qu'au fond, il faut laisser aux jeunes, il faut leur faire confiance. Et les jeunes sont capables, et plutôt que de les ramener dans un camp de façon très binaire, ils sont capables de nuances et capables de comprendre à la fois que bon, très bien, oui, ok, on a un président qui a une mécanique intellectuelle brillante, qui est sympa, ok, très bien. Maintenant, la réalité, c'est qu'est-ce qu'il fait sur le plan, et qu'est-ce qu'il dit sur le plan politique.
Et puis dans les sondages, Thierry, les 18-34 ans votent, je crois, à 20-25% à son moment national, faut pas l'oublier.
Les 18-25 ans le trouvent sympa à 51%, c'est-à-dire l'apprécie à 51%. Il ne vote pas pour lui, mais bon, et c'est exactement ce qu'il cherchait.
Allez, on va. Oui, Christine Bouillon,
En un mot, simplement, il s'adresse aussi à une jeunesse qui a été confinée depuis 15 mois et qui s'en souvient et qui s'interroge beaucoup sur la suite. Donc, il y a aussi un message, on va dire, souriant et d'optimisme qu'il essaye de donner. Après, il faudra des actes pour eux. Sincèrement.
Merci beaucoup en tout cas, vous restez avec nous. Christine Bouillot, Éric Revel, Thierry Guerrier, on se retrouve dans un instant avec vous. 0826 300 300 et puis avec notre invité, professeur Pierre Tadevin, qui est chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes. On parlera du patron de Moderna qui nous dit faudra une troisième dose de vaccin sans doute pour les personnes à risque d'ici la fin de l'été. On verra ce qu'il en est exactement avec notre invité puis avec nos éditorialistes et puis vous, bien sûr, je le rappelle. 0826 300 300 tout de suite sur Sud Radio. Excellente journée avec Sud Radio. Courage à ceux qui travaillent en ce lundi. Il est 9h03.
Parlons vrai.
Et le journal, c'est avec vous, Félix Mathieu. Rebonjour Félix.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Un variant mutant plus contagieux à Bordeaux, 19 000 doses de vaccins débloquées. Les autorités de santé mettent en place un centre éphémère de vaccination. Une épidémie par ailleurs en baisse. Bas les masques dans certaines plages, dans certaines forêts. Reportage à visage découvert dans quelques instants. Est-ce bien sérieux tout ça quand Emmanuel Macron joue aux youtubeurs avec McFly et Carlito? Attention à rester crédible tout de même, nous dit un politologue. Et puis, gros week-end. Côté sport, les footballeurs lillois champions de France, les rugbymen toulousains champions d'Europe, même si la fête officielle attendra dans la ville rose pour cause de restrictions sanitaires. Notre reporter a tout de même pu capter au loin quelques clameurs de joueurs en pleine réjouissance. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. 50 cas positifs à un variant jugé préoccupant à Bordeaux. Un centre éphémère de vaccination ouvrira mercredi dans le quartier où a été découvert ce foyer de contamination. Un variant mutant très rare, non pas plus dangereux mais plus transmissible. 19 000 doses de vaccins débloquées sur place. Une réunion demain entre autorités sanitaires, ville et métropole bordelaise devra déterminer où implanter précisément le centre éphémère de vaccination. Clément Barguin.
C'est dans le quartier de Bacalan à Bordeaux qu'a été découvert ce cluster d'une cinquantaine de cas positifs à un variant du coronavirus jugé préoccupant. Une vaste opération de dépistage s'est tenue ce week-end. Les premiers résultats ne sont pas encore connus, mais les autorités tentent de réagir rapidement pour casser les chaînes de contamination. 19 000 doses de vaccins ont été débloquées pour les administrer à toute la population majeure de ce quartier du nord de Bordeaux. Un centre éphémère de vaccination doit ouvrir mercredi. Les doses serviront également à fournir en vaccin modèle les pharmacies du quartier et des alentours pour accélérer le rythme des injections. En fin de semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a rappelé que les vaccins actuellement disponibles fonctionnaient jusqu'à présent contre tous les variants préoccupants.
Et justement, merci Clément Barguin, enseignant, conducteur de bus, chauffeur de taxi ou encore policier, gendarme. Autant de professions prioritaires dès aujourd'hui pour la vaccination sans limite d'âge. 7 millions de professionnels concernés en attendant la généralisation à tous les adultes dans une semaine. La France qui compte désormais plus de 23 millions de vaccinés à la première dose et bientôt 10 millions pour ce qui est de la seconde. Le nombre d'hospitalisés continue à baisser, y compris en réanimation. Conséquence, dans certains départements comme le Var, le port du masque n'est plus obligatoire dans certains espaces naturels comme par exemple à la plage de Saint-Cyr-sur-Mer. Là-bas, personne ne le regrette, Lionel Maillet.
L'eau est encore un peu fraîche, mais sur le sable de la plage des Lecs, on ne boude pas son plaisir. Le soleil et surtout le soulagement de pouvoir enfin laisser le masque sur la serviette.
C'est la liberté, c'est le bien-être.
Ah oui, moi je respire beaucoup mieux. Je suis déjà asthmatique, donc je le supporte pas trop.
Un taux d'incidence en chute libre. Si le préfet du Var assouplit la règle du port du masque, c'est uniquement pour les espaces naturels, comme dans les forêts et sur les plages.
Je suis pas médecin, mais ils disent que quand il y a du vent et que c'est en plein air, le virus il est pas actif. Je me dis, me sens pas en insécurité grâce à ça.
Du moment qu'on a suffisamment d'espace entre chaque personne, il n'y a pas de risque.
Même si elle est encore obligée de rappeler quelques clients à l'ordre pour qu'ils se couvrent le visage dans sa boutique de maillots, Marie-Sophie Septier est une commerçante qui a retrouvé le sourire.
Oh que oui, c'est bon pour le tourisme. La réouverture des magasins, l'accès aux plages, bien sûr que c'est bon. Tout le monde est content, tout le monde veut de la joie, de la gaieté, du soleil, des belles choses. Voilà ce qu'on veut.
Mais il ne faut pas encore aller trop vite, tempère le maire de Saint-Cyr, Philippe Barthélémy, pas encore prêt à se passer totalement du masque en extérieur.
Lorsque l'on est sur les marchés, il me semble normal, si vous voulez, aujourd'hui, tant qu'on n'est pas véritablement à zéro au niveau des taux d'incidence, qu'il y ait une protection.
Dans la région PACA, il n'y a plus que sur les plages des Bouches-du-Rhône que le port du masque est encore obligatoire.
Et au reportage Sud Radio signé Lionel Maillet. Risque d'apartheid, les mots forts du ministre des Affaires étrangères. Selon Jean-Yves Le Drian, seule une solution à deux États pourrait faire émerger la paix entre Israël et Palestiniens, il l'a dit. Hier, l'Italie endeuillée, la chute d'une cabine de téléphérique a tué 14 personnes dans une station balnéaire au nord du pays, parmi eux 5 touristes israéliens, ainsi qu'un enfant qui a succombé à ses blessures à l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur annonce porter plainte contre Audrey Pulvar. Réaction de Gérald Darmanin au propos de la tête de liste PS aux élections régionales en Ile-de-France. Elle avait notamment jugé glaçante la manifestation de policiers devant l'Assemblée nationale la semaine dernière, ainsi que les slogans contre la justice qui ont été lancés à cette occasion. Sud Radio, 9h08, selon vous, un président devrait-il faire ça?
Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va?
Ça va bien et vous?
Ça va super. Vous êtes en haut-parleur, je suis avec McFly et Carlito là.
On vous adore, Kylian, bravo, on vous aime.
Ça, c'est la vidéo de plus d'une demi-heure enregistrée par Emmanuel Macron avec les youtubeurs McFly et Carlito. C'était un pari du président. Alors, chanson sur les gestes barrières ayant fait plus de 10 millions de vues sur Internet, eh bien, ils ont eu droit de jouer au concours d'anecdotes avec le chef de l'État, une sorte d'interview au ton très décalé, volontairement décalé, communication périlleuse dans cette période compliquée, analyse Bruno Cotrès, politologue et chercheur au CEVIPOF.
Il y a quand même beaucoup de difficultés qui vont apparaître pendant cette période, dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Les gens qui ont perdu leur boulot, les gens qui sont dans la galère. Et c'est vrai que voir le président de la République consacrer du temps se soumettre à un exercice assez marrant de communication, alors que dans le même temps, il y a de telles difficultés, de telles souffrances dans le pays, peut être à double tranchant pour lui. C'est quand même le président de la République et tout le monde en ce moment en France n'a pas forcément le goût ou l'esprit à se tourner vers une communication de deuxième ou troisième degré qui prend les choses avec légèreté.
Bruno Cotrès, politologue et chercheur au CEVIPOF. Quel week-end côté sport. En football, Lille, sacré champion de France. Les nordistes succèdent au PSG un petit point devant Paris après leur victoire 2-1 face à Angers. C'était hier soir. Et puis en rugby, cinquième titre de champion d'Europe pour le Stade Toulousain. C'était samedi, la face à La Rochelle en Angleterre. Mais les joueurs de Toulouse n'ont pas pu fêter leur retour avec les supporters en cause. Les restrictions sanitaires dans la Ville Rose. Alors pour autant, Rémi Mességuet, quelques chanceux ont tout de même pu les croiser.
En marchant place du Capitole dimanche matin, personne n'aurait pu croire que les Toulousains viennent de décrocher leur cinquième étoile en Coupe d'Europe. À cause du Covid, les supporters se sont organisés autrement. C'est le cas d'Olivier.
On a fait une petite fête avec les amis, voilà, et c'était vraiment un comité restreint. Et c'est quand même un petit peu dommage pour nous, mais le résultat est là et la victoire est là. Et c'est tout ce qui importe pour nous. Et aujourd'hui, on est vraiment, vraiment heureux.
Pour apercevoir quelques fêtards, il faut se diriger place Saint-Pierre. Et surprise, ce sont les joueurs. Léa fait partie des chanceux et se retrouve attablée à quelques mètres du trophée.
C'est bizarre, c'est quand même quelque chose de le fêter. On est presque plus proche d'eux qu'on aurait pu l'être, donc c'est chouette aussi.
Un optimisme partagé par le 8, principale association de supporters. Pas de présentation de trophée au balcon pour l'instant, mais pour David, un des membres, ce n'est que partie remise.
On est frustré, mais en même temps, on peut comprendre les conditions sanitaires actuelles. On est supporter, mais on est responsable avant tout. Donc évidemment, on aurait bien aimé revivre ce qu'on a vécu il y a 2 ans à Place du Capitole. Et on fait confiance pleinement au Stade Toulousain pour nous présenter le trophée dans des très bonnes conditions à la fin de la saison.
Pour célébrer ces champions, le club donne rendez-vous à ses supporters pour une fête digne de ce nom, probablement au début de la saison prochaine.
Reportage Sud Radio signé Rémi Mességuet à Toulouse d'ailleurs, mais côté football, cette fois on connaît l'adversaire de barrage pour tenter la remontée en Ligue 1. Il faudra affronter Nantes. Nantes qui de son côté essayera de ne pas descendre en Ligue 2. Et puis autre nouvelle du week-end en sport, on reverra Marseille sur la scène européenne en foot la saison prochaine. L'OM désormais qualifié en Ligue Europa.
Mais ça c'est une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Merci à vous Félix Mathieu.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
Et 9h11 dans le Grand Matin de Sud Radio. Dans quelques minutes, dans quelques instants, un ouvrage très intéressant sur les espions du Vatican. Oui, on ne va pas parler de religion ce lundi de la Pentecôte. On va parler effectivement de ces espions du Vatican, donc plus du côté politique, du côté coulisses du Vatican, avec donc cet ouvrage de Yves Audonic de Noël qui sera avec nous dans une petite dizaine de minutes maintenant. Mais tout d'abord, notre invité, c'est le professeur Pierre Tadevin. Bonjour.
Bonjour.
Pour un tout autre sujet, effectivement, vaccination en l'occurrence, vaccination des 12-17 ans d'ici la fin août, troisième injection pour les personnes à risque dès la fin de l'été, ce sont les recommandations faites hier par le patron français de Moderna dans le journal du dimanche. Professeur Pierre Tadevin, vous êtes chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Elle se justifie déjà, selon vous, cette troisième dose pour les personnes à risque avant même l'automne prochain, finalement ?
C'est un peu prématuré et c'est surtout un peu étonnant de l'entendre de la bouche de la personne qui commercialise le vaccin, mais c'est attendu. On sait que la protection ne sera pas très longue et qu'il faudra refaire une troisième dose à un moment ou à un autre.
C'est-à-dire qu'au-delà de la communication finalement commerciale, en termes de santé, pour le coup, il peut y avoir des explications, ça peut se justifier ou alors ça vient beaucoup trop tôt ?
Non, non, ça peut tout à fait se justifier. Il y a déjà une population pour laquelle on recommande une troisième dose, qui sont les gens très immunodéprimés, comme les greffés d'organes ou les gens qui ont des cancers sous chimiothérapie. Et pour la population suivante, par exemple les gens dans les EHPAD, ce ne serait pas du tout délirant de les vacciner à la fin de l'été, avant le risque de quatrième vague, par exemple.
Parce que justement, il y a des risques pour ces personnes-là que les anticorps ne tiennent pas suffisamment longtemps, qu'ils fassent faire des rappels très régulièrement, finalement.
Oui, ce sera peut-être pas des rappels très régulièrement, mais consolider ce qu'on a obtenu avec les deux premières doses par une troisième dose quelques mois plus tard, ça pourrait tout à fait justifier. Et ça, c'est les études qui le diront, c'est pas le patron de Moderna.
Bien sûr. En l'occurrence, alors chacun y va de son petit commentaire, parce que du côté de Pfizer, on parlait d'une éventuelle troisième dose à l'automne prochain. Là, on parlait de l'ensemble des publics, hein, pas seulement des personnes à risque. Est-ce que là, ça veut dire que, par exemple, comme la grippe, il faudrait, pour envisager en tout cas, pour ce Covid, d'avoir justement une forme de rappel, en l'occurrence tous les ans, chaque année déjà?
C'est vraiment possible, mais on ne sait pas très bien. Tous les patients des grandes études ont été inclus à peu près l'été dernier, et depuis, ouais, ils sont suivis. Donc on va savoir à quel moment il faut renforcer l'immunité en les réinjectant.
Par rapport aux adolescents de 12 à 18 ans, le gouvernement semble vouloir accélérer là aussi les choses. Il y a urgence, selon vous, à les vacciner justement au plus vite?
Il n'y a pas urgence, mais c'est vrai qu'on va arriver bientôt en France à un moment où on aura vacciné probablement tous les adultes qui sont d'accord pour le faire. Vous savez qu'on a aussi beaucoup d'hésitants, voire d'opposants. Et ensuite, augmenter la couverture vaccinale, ce sera toujours du bénéfice avant le risque d'une quatrième vague. Plus on aura vacciné de monde, moins le virus pourra s'installer en France. Donc, passer aux adolescents à ce moment-là, à ceux qui sont volontaires et d'accord pour le faire, ça nous aidera à contrôler l'épidémie.
Parce que par rapport aux études qu'on a jusqu'à présent, on sait qu'entre 12 et 18 ans, il y a des risques importants de contamination. Ça s'est vérifié, c'est consolidé à ce niveau-là?
Alors, on a l'impression qu'avec le variant initial, celui de Wuhan, les enfants passaient vraiment à travers et jouaient peu de rôle dans la transmission. Et avec le variant britannique, on a vu un rajeunissement de la population moyenne et un risque majoré chez les plus jeunes. Donc, ils ont peut-être joué un rôle important dans la troisième vague en termes de transmission.
À ce jour, près d'un tiers des Français ont reçu une première dose. Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, souhaite qu'au moins, dit-il, 90% des adultes soient vaccinés. On a du mal à s'y retrouver finalement dans ces chiffres sur cette vaccination de pourcentage. Certains disent 75, 80, d'autres 90. À votre avis, c'est quoi le chiffre finalement le plus partagé justement pour se dire que la France sera vaccinée à ce seuil-là?
Ouais, c'est difficile de donner un seul chiffre parce qu'il n'y a pas un pourcentage en dessous duquel ça sert à rien et au-dessus duquel on a gagné la partie. Chaque 10% gagné finalement fait gagner de la robustesse, de la solidité face à ce qui nous attend. On sera plus solide vis-à-vis des variants si on est à 80-90% de vaccinés, par exemple, que si on est à 60.
Dernière question, vous craignez vous-même une quatrième vague à l'automne prochain?
Je trouve que ce qui s'est passé les dernières semaines est très rassurant. On a réussi à mieux vacciner, ça a dégringolé à l'hôpital. Donc je ne suis pas très inquiet, mais il faut garder ça en tête et il faut se préparer au mieux pour que ça n'arrive pas.
Merci en tout cas pour votre éclairage, professeur Pierre Tadevin. Je rappelle que vous êtes le chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, également président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous.
Bonne journée.
Merci, merci à vous. Allez, on poursuit. Bien sûr, vous nous appelez 0826 300 300 pour réagir à l'antenne, partager vos coups de gueule, vos coups de cœur. Et justement, on est avec un auditeur qui nous appelle. C'est Fred, je crois, du Gard, qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour et bienvenue, Fred.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci de me donner la parole.
Avec grand plaisir.
Oui, pardon.
Avec grand plaisir, je disais tout simplement.
merci beaucoup.
Vous vouliez réagir sur quel sujet?
Sur la vaccination, écoutez, moi je fais confiance à mon corps, moi j'ai 43 ans, je suis en pleine forme, je vois les effets en fait que ça fait en fait sur les vaccinations par rapport à tout ce qui peut se dire, même une sénatrice de Guyane qui dit qu'en fait deux morts chez ses proches qui sont fait vacciner, honnêtement c'est un produit qui est nouveau, qui est en fait en test. Nous sommes pas encore en fin de phase 2. Et quand j'entends parler votre invité là, qui parlait, oui, couverture vaccinale, ici, et que le professeur Raoult dit que notre système immunitaire est 10 fois plus performant que ce supposé vaccin, écoutez, moi je fais confiance à mon corps. J'ai pas peur en fait de tout ce délire en fait. D'ailleurs, le délire en fait, il va jusqu'à ce que les scientifiques britanniques se sont excusés auprès de la population parce qu'on leur a demandé de faire peur à la population.
Donc, en l'occurrence, vous avez déjà été vacciné sur d'autres virus quand vous étiez plus jeune.
Pardon,
j'imagine. J'imagine que vous avez déjà été vacciné.
Ah oui, bien sûr,
très jeune.
Évidemment. Ouais. Mais oui, le dernier date, ça a été le tétanos.
Ouais.
Parce que voilà, je me suis fait mal à la main et je me suis fait vacciner contre le tétanos.
D'accord.
Voilà, il y a du recul de 30, 40 ans en arrière, donc il y a aucun souci là. On a aucun recul. Aucun.
Mmh. Après, sur la question, Pfizer, alors sur la question, Fred, par exemple, de l'immunité justement collective.
Oui.
Ça, vous dites pas, il y a une forme de solidarité à avoir, peut-être avec.
Mais la solidarité, elle est biologique. La solidarité, elle se fait la solidarité biologique par la diffusion du virus. Mais quand vous avez le virus.
Parce que là, vous dites, moi, ça va, je suis en forme.
Non, mais
c'est
bien
pour
sûr,
ça.
Mais je suis en forme.
C'est pour ça que je me permets de relancer là-dessus.
Vous savez, ce que Véran dit, c'est que le vaccin, le supposé vaccin, n'est pas efficace contre les formes graves de Covid. Donc, en fait, il sert à quoi ? Il faut qu'on m'explique, parce que moi, je vais dire, quand j'entends les autorités dire des choses comme ça, pour moi, il est clair que, en fait, je ne vais pas me vacciner.
Bah, de toute façon, cette réponse-là, on l'aura très rapidement hein, sur l'efficacité du vaccin contre les formes graves. De toute façon, là, on a eu déjà des premiers, on a eu les enquêtes. Bon, on va voir après dans les faits ce qui se passe effectivement dans chaque pays où il y a eu ces vaccinations et voir si le nombre
regardez, regardez, les enquêtes sont vite faites. Aux Seychelles, vaccination de masse, augmentation en fait des décès et des cas positifs. Israël, identique. Angleterre, identique, avec variant. Nous allons aux États-Unis, où nous avons 20 États qui refusent toutes les mesures en fait sanitaires. Il y a très peu de cas et la population se sent bien au niveau psychique et peut vivre une vie libre. Alors aujourd'hui, les études, pas besoin d'études, nous avons des cas concrets. On les voit, donc moi à partir de là, je vais dire... Moi, il faut que les médias, tout ça, arrêtent de faire peur aux gens, parce que là, les gens, ils sont terrorisés. Et regardez, vous savez, par rapport au début de la pandémie, on désinfectait les caddies, les pompes, l'essence, les digicodes des banques. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Mais c'est ce qu'on fait encore beaucoup, hein. Enfin, je tiens à le signaler, parce qu'on s'en rend peut-être moins compte parce qu'on a le réflexe, mais dans notre vie de tous les jours, finalement, on fait plus gaffe aux gestes. Alors, je sais pas, moi, je vois à titre personnel, vous voyez, je tousse dans mon coude. Je fais même plus gaffe à ça, mais je pense qu'on prend des réflexes aussi sans s'en rendre compte, et notamment sur le gel hydroalcoolique. Et c'est tant mieux. Et après, au-delà du Covid, ça peut aider sur d'autres maladies, d'autres virus, donc pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, j'imagine que sur la question du jour, vous avez dit, est-ce que vous allez vous faire vacciner ? Non, je ne veux pas, du coup, vous, oui. Fred.
Ah non, surtout non, merci. Non, merci.
En tout cas, vous aurez eu la parole. Vous aurez eu la parole sur Sud Radio. je vous souhaite une bonne journée. Continuez d'écouter Sud Radio.
Dans la paix et la bonne humeur.
Merci, oui, effectivement, dans la paix et la bonne humeur. Bien sûr, sur Sud Radio. Allez, dans un instant, la paix et la bonne humeur. Alors, surtout les coulisses et puis l'espionnage. Dans quelques instants, du côté du Vatican. Oui, les espions du Vatican. C'est le livre d'Yvonique de Noël. Il vient nous en parler dans quelques instants sur Sud Radio. On l'accueille. 9h21. À tout de suite dans le Grand Matin.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
Et 9h24 sur Sud Radio, en ce lundi de la Pentecôte, on fait un petit pas de côté. On va parler du Vatican, mais côté politique, cette fois-ci pas forcément religieux, avec un ouvrage palpitant, Les Espions du Vatican, de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. C'est aux éditions Au Nouveau Monde et j'ai le plaisir de recevoir son auteur. Bonjour Yvonique de Noël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio avec ce livre, je vais le dire, incroyablement documenté sur la face cachée du Vatican. C'est un peu l'envers du décor, l'autre face religieuse d'un côté et puis de l'autre politique et espion. C'est une histoire qu'on ne connaît pas forcément.
Non, effectivement, le Vatican, c'est aussi un État. Et comme tout État, il a besoin d'avoir un travail de renseignement et également de contre-espionnage. Et c'est également un État qui est terriblement espionné. C'est-à-dire que la concentration d'espions qu'il peut y avoir à Rome pour s'occuper du Vatican au XXe siècle est tout à fait sidérante. Aussi bien les pays de l'Est, on s'en doutait un petit peu, tentent de pénétrer le Vatican, mais également les Américains. Il y a une anecdote au début du livre. À la fin des années 70, on fait faire une inspection des bureaux de la secrétaire d'État. Alors le secrétaire d'État, c'est un peu le premier ministre du Vatican. Et là, on trouve plein de micros. Et on dit, mais c'est quoi ces micros? Ben alors, ceux-là, ils sont russes. Ceux-là, ils sont tchèques. Ceux-là, ils sont américains. Et ainsi de suite. Et donc, évidemment, le personnel sidéré découvre qu'il est écouté par un peu tout le monde.
Mais comment on explique ça, justement? C'est quoi? On se dit que le pape, finalement, et tous ses croyants, tous ces chrétiens, 1,3 milliard, finalement, ça pèse. C'est une voix qui pèse au niveau politique, géopolitique.
Oui, d'abord, il y a un gros fantasme chez tous les chefs d'État, que ce soit les chefs d'État américains, les chefs d'État russes, comme quoi le pape serait à la tête du service de renseignement le plus puissant du monde. Donc, il y a une petite confusion, puisqu'on s'imagine que chaque prêtre est potentiellement un espion, alors que ça ne marche pas tout à fait comme ça, même si l'énonciature, c'est-à-dire les ambassades du pape, remontent énormément d'informations, et que dans chaque pays, les prêtres font des rapports au nonce, qui lui-même fait des rapports au pape. Mais ça fait pas deux pour autant à chaque fois des espions. Donc il y a ce premier point, et puis il y a un deuxième point qui est que le XXe siècle est marqué par une lutte à mort, sans merci, entre le communisme et le catholicisme.
Mais justement, les origines, vous en parlez, hein, puisqu'il y a déjà cette entre-deux-guerres, finalement, avec la révolution russe en 1917, et finalement ce réseau d'espions, qui ne sont pas vraiment des espions au début, finalement, ce sont des amateurs espions qui sont envoyés finalement dans cette URSS. Il y a cette volonté, en tout cas, d'espionnage pour finalement infiltrer l'URSS, qui est très anti-catholique, finalement.
Alors effectivement, il y a une répression terrible de la part des communistes contre la religion catholique. Et donc, on essaye d'infiltrer en territoire soviétique des prêtres, des évêques, de manière à reconstituer une église clandestine. Ça va même dans l'immédiate après-guerre par des parachutages organisés par la CIA. Donc, ça va assez loin. Et il y a à Rome un centre qui s'appelle le Russicum, qui est une sorte d'école d'espions. C'est-à-dire qu'on sélectionne des prêtres qui parlent russe, qui vont être infiltrés en URSS. Alors, on leur donne des faux papiers, on leur apprend un maximum de choses pour qu'ils arrivent à survivre sur place. Le problème, c'est que le KGB est excellent, ce qui veut dire que la plupart sont arrêtés, tués, emprisonnés le plus souvent dès leur arrivée.
En fait, ils sont suivis dès qu'ils arrivent et ils s'en rendent pas forcément compte. Et effectivement, il y a un point noir dans cette histoire finalement du Vatican qui est lié à Pie XII et à la Seconde Guerre mondiale, silencieux sur la Shoah, alors que vous le dites dans votre ouvrage, il était au courant des déportations, des camps de concentration, des camps de la mort aussi. Ce silence, vous essayez de le comprendre, de l'expliquer, et on se rend compte que c'est finalement un pape qui était un peu entre deux, finalement, qui a essayé de jouer la paix avant même le conflit, cette Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas réussi et qui s'est empêtré jusqu'au bout.
Oui, Pie XII a été formé dans les années 10, les années 20, et il a été très marqué par la volonté du pape pendant la Première Guerre mondiale d'essayer d'être une force de négociation et de paix à la fin de la guerre, c'est-à-dire d'aider à arrêter la guerre. Donc il s'illusionne un peu sur le fait qu'il va pouvoir à un moment donné prendre la main et organiser des négociations entre les alliés et Hitler, ce qui évidemment n'arrivera jamais. C'est également un pape assez germanophile, il n'est pas nazi, mais en tout cas, lui, une Allemagne catholique traditionnaliste lui irait très bien, et donc il ne veut pas qu'on humilie l'Allemagne, il ne veut pas qu'on écrase l'Allemagne, et c'est vrai qu'il va avoir un peu un double discours, puisque aujourd'hui les archives montrent qu'il a des informations tout à fait précises sur ce qui est en train de se passer un peu partout, sur les camps de la mort,
dès
sur 42, les massacres.
43.
Tout à fait, même fin 41, il commence à y avoir des infos qui arrivent. Donc on ne peut pas dire qu'il ne le savait pas. Effectivement, son silence est assourdissant. Alors, on peut dire, oui, mais enfin, s'il s'était exprimé de manière extrêmement virulente, à un moment donné, Hitler aurait envahi le Vatican. Et d'ailleurs, il y a eu des préparatifs. C'est-à-dire qu'effectivement, au cas où Pie XII aurait été capturé par les Allemands, il devait y avoir, il avait organisé un nouveau conclave pour désigner un nouveau pape.
D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on est en plein dans l'actualité avec l'ouverture, je crois que c'est le pape François, il y a 2 ans qui annonçait l'ouverture des archives. On va peut-être en savoir plus aussi sur ce rôle-là de Pie XII pendant cette Seconde Guerre mondiale.
Oui, alors les historiens sont en train de travailler, on voit des choses sortir. Alors on sait, pour donner un exemple d'action secrète, que Pie XII a eu des discussions avec la résistance allemande qui souhaitait être mise en relation avec les Américains et qui disait « nous, on voudrait tuer Hitler et le renverser, mais on voudrait un certain nombre de choses en échange ». Bon, ça n'a pas abouti, mais c'est un exemple d'action secrète de Pie XII qui montre que la situation est extrêmement complexe pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Et on va continuer d'en parler, bien sûr, les espions du Vatican de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Avec vous, on en parle, Yvonique, de Noël et avec nos auditeurs, bien sûr, 0826-300-300, vous nous appelez pour poser vos questions. On parlera aussi de la mort un peu prématurée de Jean-Paul Ier et puis du rôle de Jean-Paul II sur la fin de l'URSS du bloc de l'Est. Restez bien avec nous sur Sud Radio, 9h31. Et il est l'heure de jouer, de vous offrir quelques petits cadeaux. Moi, j'ai envie de dire même des très gros cadeaux, puisque Sud Radio vous offre vos vacances. Vous rêvez d'air pur et de grands espaces au cœur des Pyrénées, Béarnaises, ou de surfer les plus belles vagues de la côte basse. C'est possible. Sud Radio et Gîtes de France 64 Béarn, Pays Basque vous offrent une semaine pour 4 personnes dans un gîte 3 épis. Vous nous appelez, bien sûr, tout de suite, 0826 300 300. Le 13e appel, porte-bonheur, eh bien, sera le gagnant. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
Et on est toujours avec Yvonique de Noël, 9h34 sur Sud Radio, pour cet ouvrage incroyable sur les coulisses des espions du Vatican de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, aux éditions du Nouveau Monde. Et vous nous appelez justement pour poser vos questions, réagir, 0826-300-300. On est avec Richard qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Richard.
Oui, bonjour à vous. Bonjour, monsieur de Noël.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir peut-être à ce que vous avez entendu jusqu'à présent.
En fait, ça m'interpelle. J'avais deux questions peut-être qui pourraient nous éclairer. Une qui concerne plus le Vatican et puis l'autre peut-être les autres ouvrages de monsieur de Noël.
Oui.
La première, c'était le Vatican. Aujourd'hui, on sent bien qu'ils sont dans la difficulté. Et je voulais savoir si qui étaient leurs ennemis, parce qu'on est dans un monde difficile, hein, où chacun fait sa place, et on sent bien qu'il y a des attaques en règle, que ce soit sur les problèmes de mœurs qu'il y a eu, on sent que ça pilonne, et savoir à peu près aujourd'hui les rapports de force que le Vatican vit dans le monde, c'est les rapports de force en place aujourd'hui, il n'y a plus le communisme, il y en a d'autres. Mm-hmm. Et la seconde question, elle concerne plus la corruption au sens large, les mauvais côtés des organisations, est-ce que le laxisme qu'on a des fois sur nos petits larcins, ils ne sont pas organisés pour permettre à chacun d'accepter des grandes corruptions sans qu'on s'en indigne trop.
Alors, on va faire réagir. Merci Richard de nous avoir appelé. Alors, vous restez, on va faire réagir justement et Yvonique de Noël sur vos deux questions. Déjà, sur la question de quel ennemi aujourd'hui du Vatican, pourquoi ça sert d'avoir des espions aujourd'hui au Vatican?
Alors, on peut faire une réponse à plusieurs étages, malheureusement. La première chose, c'est qu'il y a des affrontements terribles internes au Vatican. C'est-à-dire qu'il y a des factions qui, effectivement, n'hésitent pas à se faire des crocs en jambes, à organiser des coups tordus. J'en parle dans la dernière partie du livre, soit pour faire accuser à tort ou à raison de corruption, soit pour des affaires de mœurs. Donc on a la période la plus récente est quand même assez phagocytée par ces histoires-là. Plus largement, ensuite, il y a des affrontements géopolitiques qui se poursuivent. Alors, on est toujours avec le Vatican, à la fois dans des oppositions, mais aussi dans des négociations. Je donne un exemple, c'est la Chine.
Oui.
Depuis 1949, l'église du Vatican est interdite en Chine. C'est devenu une église clandestine. Il y a eu une église officielle qui est en quelque sorte désignée par le parti. Aujourd'hui, on arrive à une sorte d'aggiornamento où les deux semblent pouvoir se rejoindre. Et pour autant, malgré ces accords qui ont été signés, déjà fin 2019, le Vatican a été victime de cyberattaques chinoises. C'est-à-dire qu'on était en pleine négociation et plutôt que de négocier de bonne foi, eh bien la Chine a essayé d'avoir les positions internes pour essayer de... Bon, c'est assez classique. Au-delà de ça, le catholicisme est également en régression sur un certain nombre de territoires par rapport à d'autres religions. Je pense essentiellement aux évangéliques. C'est le cas beaucoup en Amérique du Sud, c'est le cas en Afrique. C'est à la fois le résultat d'une, d'une je dirais, de manœuvres assez offensives de la part de ces religions, parfois financées par des milliardaires américains qui y voient eux-mêmes leur intérêt économique derrière ça, et parfois aussi par des erreurs terribles qu'a pu commettre l'Église, des erreurs politiques, je pense en particulier à l'attitude par rapport au génocide au Rwanda, où beaucoup de catholiques choqués ont quitté le catholicisme et ont embrassé d'autres religions.
Autre question, alors c'est sur les histoires de corruption, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi là-dedans dans votre ouvrage. Alors, pour donner quelques exemples, il y a les rapprochements avec la mafia italo-américaine durant la Seconde Guerre mondiale, avec cette demande de la part de Roosevelt, je sais plus son nom exactement, mais justement un représentant de l'Église, de jouer le rôle d'intermédiaire avec cette mafia italo-américaine pour stopper les attaques de navires alliés de transport de troupes. Il y a aussi la banque du Vatican, où il y a des histoires aussi là derrière, d'argent aussi venant de la banque allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ou juste avant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'on a l'impression aussi que là-dessus, sur ces histoires, si ce n'est de corruption, en tout cas de face un peu cachée, quoi.
Oui, alors, effectivement, la lutte anticommuniste a été le paravent ou le moteur de tout un tas d'affaires assez stupéfiantes quand on les regarde aujourd'hui. Ouais. Alors, le premier exemple que vous donniez, c'est effectivement, par l'entremise de l'archevêque de New York, le cardinal Spellman, qui est un proche de Pie XII, et bien tout simplement, Roosevelt fait demander à Cosa Nostra de l'aide. D'abord pour effectivement réguler un peu ce qui se passe dans les ports de New York et ensuite pour aider au débarquement en Sicile en 1943. Donc c'est assez fou quand on y pense, parce que Mussolini avait quasiment réussi à éradiquer la mafia et du coup la mafia va reprendre du poil de la bête grâce à l'invasion américaine. Plus proche de nous, effectivement, sont les affaires autour de la Banque du Vatican dans les années 70-80 où un archevêque particulièrement troublant comme figure, beaucoup le qualifient de corrompu, l'archevêque Marcinkus, prend en main la Banque du Vatican sous Paul VI et en fait une véritable blanchisseuse d'argent sale, ce qui est évidemment très rémunérateur, et cet argent va servir à la lutte contre le communisme. C'est-à-dire que Jean-Paul II, quand il prend ses fonctions de pape, il voit très bien ce qui se passe, mais il considère que l'urgence, c'est la lutte contre le communisme, et pour la lutte contre la corruption, on verra plus tard. Bon, donc effectivement, l'Église s'est retrouvée mêlée, de par les grands mouvements géopolitiques, à des affaires particulièrement lourdes. Et de fait, effectivement, notre auditeur a raison, il y a des tas de petites situations individuelles de prêtres qui ont été un petit peu mises sous le tapis à cette époque-là parce que la moralité et la lutte contre la corruption n'était pas la priorité du moment.
Vous le disiez, il y a cette idée aussi que finalement le pape se dédouane un petit peu de ses espions. Il y a un peu ça ou pas? En tout cas, on a l'impression à lire votre ouvrage que le Vatican, il y a un peu la logique de chaque espion finalement agit de son côté, que il y a des connexions, mais finalement le pape est au courant, mais jamais en l'étant totalement. Finalement, il y a tellement d'intermédiaires qu'on ne peut pas revenir jusqu'à lui.
Alors, j'essaie de l'expliquer dans le livre, c'est un univers compliqué. C'est un univers avec beaucoup de d'aspects sombres. Il y a, on va dire, ceux qui sont proprement au Vatican, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'entourage du pape et qui répondent quand même au pape ou à ceux qu'il a désignés pour gérer les actions secrètes. Et puis ensuite, il y a les congrégations. Il y a par exemple les jésuites qui ont été traditionnellement très impliqués dans les affaires secrètes. Il y a également des ONG catholiques qui sont très actives pendant les dernières décennies de la guerre froide pour lutter contre le communisme. Il y a également l'Opus Dei. Alors l'Opus Dei, c'est un chapitre à part entière du bouquin avec encore des histoires dans l'histoire que j'ai pas le temps de développer ici. Et donc au sein de ces congrégations, de ces ONG qui se déclarent toutes fidèles au pape, il y a effectivement une marge d'autonomie plus grande. C'est-à-dire que le Vatican peut répondre qu'il ne surveille pas au jour le jour ce que font ses congrégations. Elles ont elles-mêmes des responsables. Oui. Et donc, ainsi de suite, de proche en proche, on arrive effectivement à ce qu'on appelle parfois le déni plausible. C'est-à-dire de dire, mais le pape n'est pour rien dans cette histoire.
Je voudrais qu'on termine sur... j'en parlais tout à l'heure, mais sur cette mort un peu suspecte de Jean-Paul Ier. Vous y revenez justement dans votre ouvrage, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments un peu stupéfiants finalement sur cette morte, avec beaucoup de contradictions finalement dans la découverte de son corps finalement.
Oui, alors faut le rappeler, effectivement, le cardinal Albino Luciani est nommé pape donc après la mort de Paul VI. À la surprise générale, ce n'était pas du tout un profil politique. Ouais. Il était engagé nulle part et il était sans doute le premier surpris de devenir pape. Et seulement 33 jours plus tard, il décède. Alors forcément, dans le contexte, ça fait un peu tiquer tout le monde. Et il y a des journalistes, à commencer par un journaliste américain très connu, David Yalop, qui a fait une enquête très, très approfondie pour dire en fait, il s'agissait d'un complot. Il a été assassiné parce que il s'apprêtait justement à démettre des gens comme le cardinal Marcinkus, le patron de la Banque du Vatican. Il s'apprêtait à mettre fin à certain nombre d'affaires de corruption graves. Bon, il y a des éléments au service de cette thèse. Quand on regarde de très près, en fait, on s'aperçoit que le pauvre Luciani est mort de négligence. C'est-à-dire qu'il avait des graves pathologies, il n'y avait absolument pas de suivi médical au Vatican.
Pas de médecin, ouais.
Et les gens qui étaient censés être dans son entourage, eh ben, ils avaient tous mieux à faire. Soit ils étaient en train d'intriguer les uns contre les autres, soit ils sortaient dans Rome pour faire des rencontres un peu discrètes et s'amuser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que au Vatican, on n'a pas voulu assumer ce qui s'était passé, et donc on s'est mis à mettre les choses en scène et à raconter un peu n'importe quoi. Et le problème, c'est que ces mensonges initiaux, qui étaient des mensonges vénaux, ont fini par nourrir tous les soupçons.
Comme quoi, il peut y avoir aussi des négligences derrière tous les fantasmes qu'on peut avoir, d'une certaine façon. En tout cas, c'est à découvrir, à dévorer les espions du Vatican de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Yvonique de Noël, hein, c'est aux éditions du Nouveau Monde, et avec, bien sûr, ce chapitre sur l'Opus Dei, où vous en parliez aussi, très intéressant. Ce sera l'occasion pour nos lecteurs, en tout cas nos auditeurs, de lire justement ces chapitres et votre ouvrage. Merci à vous,
merci
bien
à vous.
Sûr. Et puis une prochaine fois, pourquoi pas sur Sud Radio. À bientôt.
Merci.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
9h48 sur Sud Radio, et si vous vous apprêtez à prendre le volant, vous risquez peut-être de ne pas être tout à fait tout seul sur la route, ça c'est sûr. En ce week-end prolongé, on en parle d'ailleurs avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre.
Bonjour Benjamin, bonjour.
Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on vous retrouve bien sûr dans Ça roule tous les matins de la semaine sur Sud Radio, mais aussi le vendredi de 19h à 20h, le samedi entre midi et midi et demi. Bon Pierre, à quoi on doit s'attendre concrètement sur les routes de France ce lundi ?
Bon, même si le temps n'était pas au rendez-vous partout en France, même si on n'a pas eu un week-end extraordinaire, il est vrai que le déconfinement, enfin, cette ouverture un petit peu avec ce couvre-feu beaucoup plus tard, fait du bien, et beaucoup de Français partent. On a, pour se donner un ordre d'idée, la moitié des bouchons en Ile-de-France, rien qu'en Ile-de-France, qu'on peut avoir normalement sur la France entière pendant la période de transition des 15 juillet à 15 août. Donc vous imaginez un petit peu, ça veut dire que tout le monde a envie de prendre un grand bol d'air frais, ouais. Moi le premier d'ailleurs.
Ouais, c'est clair. Vous parlez de l'Ile-de-France, il y a globalement, c'est principalement l'Ile-de-France, Paris. Est-ce qu'il y a d'autres grandes villes aussi où il faut s'attendre à de gros bouchons, clairement, durant l'après-midi, en fin d'après-midi
La règle, elle va marcher, Benjamin, sur toutes les villes de France. Pourquoi ? Ouais. Eh bien, parce qu'on a tous envie de voir un petit peu un parfum d'ailleurs. Donc forcément, eh bien, on va aller faire un petit tour sur le littoral si on n'est pas trop loin. Je pense notamment à nos amis du côté de Bordeaux qui vont forcément aller un petit peu s'éloigner. Et quand ils vont revenir, évidemment, la rocade, c'est les bouchons. Toulouse, ça va être la même. On va avoir les mêmes passages de bouchons sur la rocade un petit peu lyonnaise. Donc je conseille à tout le monde de prendre ses précautions, notamment par rapport au couvre-feu, parce que vous savez que quelquefois, les règles peuvent être un petit peu appliquées de manière très stricte. Certains diront trop, je fais partie de cela, mais en tout cas, il y a une règle en place et ne nous mettons pas en infraction. Petit conseil quand même, si vous, avant de partir, faites une photo de l'heure à laquelle vous partez, etc. Parce que si vous tombez dans les bouchons, il faudra prouver votre bonne foi et prouver que vous êtes parti suffisamment en amont, ça évitera une amende.
Ça peut être un plus, en tout cas, ça peut suffire d'une certaine façon. Face à de très gros bouchons. Qui dit en tout cas du monde sur les routes, Pierre dit vigilance accrue, forcément. C'est quoi vos conseils en cas de circulation particulièrement dense, à quoi on fait gaffe ?
Eh ben, on va faire gaffe à ne pas regarder son téléphone dans les bouchons. C'est certainement la première cause d'accident dans les bouchons. Vous savez, le truc qui va bloquer tout le monde. Parce que du coup, on va s'arrêter pour faire un constat et qu'on va être sur une rocade où on va prendre une voie de circulation. Donc faites attention à ça. Pour le reste, franchement, ça devrait tout devrait très bien se passer.
Oui, avec peut-être des vérifications à faire sur la voiture si on prend la route pour quelques centaines de kilomètres, qu'on rappelle un petit peu à nos auditeurs sur quoi il faut faire attention aussi là également.
Oui, bon, pression des pneumatiques. Hein, on est quand même quasiment la moitié des véhicules en France à ne pas avoir la bonne pression. Ça joue sur la consommation du véhicule. Vous allez consommer 1 demi-litre de plus quand même aux 100 km. Ça fait beaucoup au prix surtout vu le prix du carburant. Donc attention à ces petites choses. Bien sûr, les vérifications d'usage, mais tout le monde les connaît. Hein, on va pas revenir dessus. Moi, je penserais juste à un détail qu'on oublie parfois, c'est l'essuie-glace. On sait très bien qu'en ce moment, il sert beaucoup. Franchement, un essuie-glace mal réglé, c'est l'absence de sécurité. Lorsque vous êtes sur une rocade et que vous roulez, ou même sur une route départementale et que vous avez un essuie-glace en mauvais état, vous regrettez de ne pas l'avoir changé. Donc un essuie-glace, ça vaut 10 balles, hein, 20 euros maximum. Donc on ne va pas se poser de questions pour 10 euros. On va changer son essuie-glace tout seul. Il y en a pour 3 minutes et puis on n'en parle plus.
Clairement. Juste une dernière question pour conclure, Pierre Chasseret. Parce que je voyais passer notamment cette information, le boom des ventes de voitures d'occasion sur Internet carrément. C'est quoi? C'est lié un peu à ce confinement où on a des nouvelles méthodes, formes de consommation, justement, ou parce que ça paraît un peu bizarre quand même.
Complètement, tout a changé. Maintenant, on achète de plus en plus par Internet, y compris sa voiture d'occasion, parce qu'on a des nouvelles petites sociétés qui se sont montées et qui proposent des choses géniales, d'ailleurs. Elles vont voir le véhicule pour vous. Il faut savoir qu'on a évolué, Benjamin, sur comment on achète notre véhicule d'occasion. Avant, on l'achetait à moins de 20 bornes de notre domicile. Maintenant, on l'achète à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous, parce que, via les applications connectées, via les sites Internet, on arrive à avoir accès à des annonces qui sont loin, avec peut-être des bonnes affaires. Donc le petit conseil, c'est de s'orienter vers des sociétés qui vont aller voir le véhicule pour vous, qui vont vous dresser un constat du véhicule, qui vont vous donner toutes les failles potentielles ou alors un blanc-seing pour pouvoir l'acheter. Donc on achète de plus en plus par Internet, que ce soit du neuf, parce qu'avec les visites virtuelles, on peut choisir son véhicule à distance, ou alors que ce soit aussi l'occasion, et c'est d'ailleurs pas forcément un mauvais plan.
Et ben voilà, en tout cas, bonne route à ceux qui la prennent, la route au volant aujourd'hui, quelle que soit la circulation, peut-être avec les bouchons, bon courage, vous mettez Sud Radio, ça passera beaucoup plus vite. Merci à vous, Pierre Chasseret, on vous retrouve, vous, sur Sud Radio, dès demain matin, 6h20 pour Ça Roule, et puis, je le rappelle, tous les vendredis soirs et samedi midi pour Ça Roule, l'émission. Bonne journée à vous, Pierre.
Allez, bonne route à tous, soyez prudents.
Merci. Et on a un gagnant ou une gagnante pour notre jeu. Une semaine pour 4 personnes avec Gilles de France, Béarn et Pays Basque. Cette gagnante, c'est Véronique qui nous appelle de Béziers. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour.
Bravo, félicitations.
Merci beaucoup, oui, je suis très contente.
Et 13e appel, vous avez gagné. Oui. C'est une belle
Merci
victoire.
Beaucoup.
Qu'est-ce que, alors, vous allez y aller avec qui, en famille?
Oui, avec mon mari, oui.
Alors, plutôt Béarn ou plutôt Pays Basque pour vous? Parce qu'il y a le choix,
plutôt
là.
Plutôt Pays Basque, je pense.
Ah bah voilà. Chacun, non, mais chacun sa préférence, vous avez bien
voilà.
raison. En tout cas, félicitations Véronique.
Merci.
Avec, vous envoyez cette semaine pour 4 personnes. Donc avec Gilles de France, Béarn et Pays Basque, vous choisirez bien sûr. Puis vous profiterez de ces moments de liberté. C'est important aussi de les retrouver, ça, Véronique.
Ah oui, ça fera du bien. Oui.
Bah oui, c'est important. En tout cas, merci à vous Véronique et vous continuez bien sûr d'écouter Sud Radio.
Ok, merci beaucoup, merci.
Allez,
à Sud Radio.
Au revoir. Très vite,
merci,
Véronique, et profitez bien. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité, comme toujours, en ce lundi de la Pentecôte. Demain, vous retrouverez Cécile de Minibus et Patrick Roger aux commandes de ce grand matin. Dans un instant, c'est Valérie Expert avec Lucien Lefant, des chefs étoilés aussi pour le best-of. Et puis, vos débats en direct avec Christine Bouillot, tout d'abord à partir de 10h30 jusqu'à midi. Et puis, à partir de midi, c'est Arthur Delaborde dans tous ses états. Très bonne journée à vous sur Sud Radio. Merci à toutes les équipes du grand matin. Et puis, bonne journée, avec Sud Radio, forcément.